Bonsoir à toutes et à tous pour cette sixième conférence de notre cycle de conférences publiques consacrée cette année au pouvoir et autorité en islam. Je suis très heureuse d'introduire ce soir cette conférence. Je suis chargée de les organiser et je m'excuse pour l'absence du directeur Pascal Burizi qui avait l'habitude d'être là et qui ce soir a eu un empêchement. Il sera à nouveau présent pour animer la conférence publique du mois prochain, le 5 avril. Je remercie vivement Makram Abbès de nous faire l'honneur d'intervenir ce soir sur la thématique Miroir des princes et art de gouverner. Je vois depuis tout à l'heure dans la salle de nombreux visages familiers et je vous remercie d'être fidèle à ce rendez-vous du premier mardi du mois. Pour ceux qui viennent pour la première fois et qui souhaiteraient réitérer l'expérience, je précise qu'une fiche d'inscription à notre liste de diffusion va circuler dans la salle et vous pourrez vous inscrire et recevoir à la fois les invitations à nos conférences, mais également le bulletin mensuel de l'ISM une fois par mois. Ce n'est pas trop contraignant en matière de réception de courrier. Avant de laisser la parole à Makram Abbès, je vais brièvement le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Makram Abbès est professeur à l'École normale supérieure de Lyon et membre de l'Institut universitaire de France. Il mène des travaux de recherche sur la philosophie politique en islam, notamment sur la guerre et les arts de gouverner. Il est l'auteur, entre autres, de l'ouvrage « Islam et politique à l'âge classique » paru aux presses universitaires de France en 2009. Et d'Al-Mawardi, de l'éthique du prince et du gouvernement de l'État, traduit de l'arabe et précédé d'un essai sur les arts de gouverner en islam, paru aux belles lettres en 2015. Merci encore à vous de votre présence. Merci Makram Abbès et bonne soirée.
Merci beaucoup, Ala, de la présentation. Et donc merci beaucoup aussi de l'organisation de la conférence. Merci à vous. Bonsoir et merci à vous d'être présents. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des miroirs des princes, d'un genre politique qui s'intitule les miroirs des princes, et de la question de l'art de gouverner en islam. Et afin d'introduire mon exposé, je voudrais partir d'une très belle phrase de Kant, le philosophe allemand, qui dit « Il est deux découvertes humaines que l'on est en droit de considérer comme les plus difficiles, l'art de gouverner les hommes » et celui de les éduquer. Alors cette citation de Kant m'intéresse beaucoup parce que donc elle intervient à un moment très intense de la théorisation des arts de gouverner en Occident. Donc traditionnellement et d'après principalement les travaux de Michel Foucault, en fait, on situe la naissance d'une forte réflexion sur la gouvernementalité, ce qu'il appelle la gouvernementalité ou les traditions des arts de gouverner. Donc on situe cette intense théorisation entre le XVIe et le XVIIIe siècle, donc à partir, disons, du prince de Machiavel jusqu'au traité de raison d'État au XVIIe siècle et les travaux des auteurs des Lumières. Et donc, je voudrais partir justement de cette réflexion de Kant, qui marque en quelque sorte l'aboutissement de cette théorisation intense des arts de gouverner en Occident, afin de savoir quelle était la part des Arabes à l'époque médiévale. Quelle était la part de la réflexion des Arabes à l'époque médiévale, donc en ce qui concerne l'art de gouverner. Alors je me suis posé cette question parce que, en travaillant sur ce thème depuis quelques années, j'ai constaté la présence dans les nombreux travaux de recherche qui abordent donc la thématique de la pensée politique en islam, j'ai pu constater une forme de déni de la présence des arts de gouverner en islam. Alors j'ai pu relever en fait trois types de déni des arts de gouverner en islam. Le premier repose sur une forme de culturalisme, ou bien d'essentialisation de la pensée politique de l'islam. Par exemple, Volney, dans ses voyages en Égypte et en Syrie, donc Volney c'est un auteur du XVIIIe siècle, donc on est en pleine période des Lumières. Donc Volney note quelque chose de très intéressant. Donc après son voyage en Orient, il dit que les Arabes n'ont pas la science du gouvernement. Bon, Je résume rapidement. Donc une forme de déni qui repose en fait sur, disons, la culture, l'étude de la culture, l'étude des mœurs, de la civilisation, etc. Il y a un deuxième type de déni en fait qui repose sur la réduction du politique au théologique, ou bien à la religion. Alors on trouve ce type de déni notamment dans la pensée islamiste, c'est-à-dire que ce n'est pas en l'occurrence le produit de la littérature orientaliste, mais le produit des musulmans eux-mêmes qui vont nous dire que en islam, eh bien la pensée politique, il faudrait aller la puiser dans la religion, hein, dans disons les principes théologiques, dans les dogmes. Et donc là nous avons cette forme de réduction, mais qui repose sur disons une référence exclusive qui serait la théologie de l'islam, et donc la théologie digérerait en quelque sorte toutes les autres sphères, l'économie, la politique, l'art. Donc à chaque fois qu'on devrait, si vous voulez, aborder les normes, ou bien les normes de conduite, ou bien tel ou tel domaine de la vie humaine, de la société, eh bien il faudrait toujours se référer à la religion, ou bien à ce que dit la religion, donc en la matière. Et donc là, c'est un autre type de déni. Et il y a un troisième encore qui repose, lui, sur la réduction de la question du gouvernement à celle du pouvoir. C'est-à-dire qu'on va établir une forme d'indistinction entre la pensée du pouvoir, la question, si vous voulez, de la souveraineté, l'accès au pouvoir, donc l'État, hein, d'une manière générale, et celle du gouvernement. Et là, on va avancer la thèse selon laquelle, eh bien, seul le despotisme a pu donc se développer en Orient. Donc, vous connaissez très bien cette thèse très classique qui a été même théorisée par certains penseurs sous le, si vous voulez, le cliché ou le titre connu de despotisme oriental. Et donc là, nous sommes dans une autre forme de déni qui repose sur la réduction du gouvernement, de la thématique du gouvernement, de l'administration, de la gestion de la population, des territoires, etc. Donc tout ce qui relève, si vous voulez, de l'administration des territoires et du gouvernement des populations. Donc réduction de tout cela à la question du pouvoir, donc du maintien au pouvoir et donc de la souveraineté ou de l'État. Donc voilà, j'ai essayé justement de travailler un petit peu sur ces différentes formes de déni et de les déconstruire. Et je me suis penché donc sur cette tradition des miroirs des princes, qui a été bien évidemment abordé par certains chercheurs depuis quelques dizaines d'années. Mais donc j'ai essayé en quelque sorte de travailler justement sur la réception par certains chercheurs, qu'il s'agisse en fait de la tradition orientaliste ou bien de la tradition arabe contemporaine, donc la réception de ces textes. Donc ces textes, les textes dont je vais parler, ont été produits principalement à l'époque classique, donc à l'âge classique de l'islam, que je définis de manière un peu large, entre, disons, le 7e et le 15e siècle. Donc ce n'est pas très précis comme, si vous voulez, comme découpage, mais mon objectif est de tout simplement de me focaliser sur les travaux rédigés en arabe. Donc, si vous voulez, ce découpage est pertinent sur le plan civilisationnel parce que, effectivement, à partir, disons, d'Ibn Khaldoun, qui est mort en 1406, il n'y a pratiquement plus d'ouvrages majeurs écrits en langue arabe. Donc, tout simplement, ce qui se passe après, c'est que le Turc, nous avons le Turc et le Persan qui vont prendre le relais, en quelque sorte. Et donc, là, nous passons à d'autres travaux, d'autres réalisations. Et même si dans ces travaux, bien évidemment, il y a aussi l'influence des textes arabes produits donc entre le 7e et le 15e siècle. Alors cette tradition, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc s'appelle en français les miroirs des princes. Donc c'est l'équivalent, c'est la traduction des specula, donc qui sont des textes produits pratiquement à la même période, c'est-à-dire qu'à la même période que les textes arabes, disons à partir du 8e siècle, notamment en langue allemande, donc en Europe du Nord, mais petit à petit, en fait, la tradition européenne se diffuse auprès des latins. Et donc les specula sont censés offrir au roi un idéal de justice et de bonté qui doit correspondre à son image. C'est de là que vient, si vous voulez, l'image du miroir. Donc le livre, le miroir des princes, doit refléter les traits du bon gouvernant et aider le prince à se conformer à son image, à prendre conscience de la nature éminente de son office. C'est un peu ça, si vous voulez, le sens donc de l'appellation par miroir des princes. Mais il faut savoir que le prince lui-même peut devenir le miroir vivant dans lequel se reflètent les vertus qui sont enseignées dans les textes. Donc il y a une sorte de, si vous voulez, de circulation entre à la fois l'image de miroir telle qu'elle est reflétée par les textes, donc l'image du prince idéal, mais parallèlement, le prince lui-même peut devenir le miroir donc de la vertu qu'on aimerait bien trouver donc chez le gouvernant. Donc voilà, c'est un peu l'appellation du genre dans la tradition occidentale, donc principalement chez les latins, alors que dans la tradition arabe, nous n'avons pas donc cette appellation par miroir, même si la métaphore donc spéculaire existe bel et bien. Nous, à ma connaissance, en fait, il y a un seul texte qui a été produit d'ailleurs sous les Ottomans, donc au XVIe siècle, au tout début de vraiment à l'apogée de l'Empire ottoman. Un seul texte en fait qui porte le titre de miroir, donc en arabe mer'at, hein, alors que auparavant nous avons plutôt une autre appellation qui est adab sultaniya. Voilà, adab sultaniya, ce qui veut dire les règles de la conduite du pouvoir politique, ou bien adab al-mulouk, ce qui signifie les règles de la conduite du pouvoir, les règles de la conduite des rois. Donc là, nous avons, si vous voulez, une appellation qui est un peu différente, et je vais préciser tout à l'heure en fait les différences au niveau du contenu entre la tradition arabe ou arabo-musulmane et la tradition latine. Mais en ce qui concerne donc juste l'appellation, donc le nom de ce genre politique, de réflexion politique, donc les traités de bon gouvernement, il faudrait savoir que ce qui est intéressant dans cette appellation, c'est la présence du mot adab, ou bien adab, qui est un terme polysémique qui voulait dire à l'époque médiévale les belles lettres, les maximes de sagesse principalement, j'en parlerai dans un instant, la culture d'une manière générale, la politesse, l'éducation, le savoir-vivre, et également il y a un sens éthique, moral, qui est celui de règles de conduite. Donc vous voyez, nous sommes véritablement dans une sorte de polysémie, c'était un peu le cas d'ailleurs de pas mal de notions et de concepts produits à l'âge classique de l'islam, et donc en l'occurrence, en ce qui concerne notre sujet, généralement on traduit par règles de conduite, la règle de conduite du pouvoir, du roi, du prince. Et on insiste beaucoup sur la parenté entre le contenu, disons, de ces adabs, de ces préceptes, de ces maximes de gouvernement, et la culture de l'honnête homme, une sorte de culture globale, donc la culture de l'honnête homme qui va se développer au XVIIe siècle en Occident. Mais il y a également un rapprochement qui est souvent fait par les spécialistes avec la PDA grecque, c'est-à-dire donc la manière de former l'homme, de former l'individu pour qu'il arrive en fait à se gouverner lui-même et à gouverner les autres. Donc là, nous sommes bel et bien dans la problématique du gouvernement et dans l'interrogation sur la manière de se gouverner soi-même, donc comment se conduire soi-même. Donc là, c'est l'éthique en quelque sorte, c'est la science de l'éthique. Et comment gouverner les autres, hein, c'est la politique. Et l'équivalent, nous avons également un équivalent en fait de presque mot à mot de adab sultaniya, c'est en latin, c'est les ars regiminis, donc les arts de gouverner, d'où justement la communication entre les deux appellations de miroir des princes et d'art de gouverner. Alors, généralement, on limite la tradition de la réflexion donc sur les arts de gouverner au miroir des princes, c'est-à-dire que nous allons trouver bien évidemment d'autres textes qui abordent la politique, j'en parlerai dans un instant, mais on estime que c'est vraiment cette tradition des miroirs des princes qui est porteuse donc d'un contenu extrêmement fort en ce qui concerne la théorisation et donc la réflexion, une réflexion assez approfondie donc sur la manière de se gouverner soi-même et de gouverner les autres. Et donc cette question de, si vous voulez, de culture permettant d'apprendre ces préceptes, d'accéder à ces maximes, de les intérioriser. Cette question de culture, donc, elle est vraiment fondamentale. Comme vous pouvez le voir dans la citation qui est juste après le texte, « Même doué d'un naturel solide, l'homme raisonnable ne peut se passer de la culture qui en fait bourgeonner la fleur, de même qu'une terre bénéficiant d'un sol excellent ne peut se passer de l'eau qui fait sortir ses fruits. » L'adab, donc l'adab, c'est les règles de conduite, l'éducation. L'adab, dit un sage, et la forme de la raison donne donc à la tienne la forme que tu veux. L'adab et la forme de la raison donne donc à la tienne la forme que tu veux. Et donc les auteurs classiques, justement, ont développé cette notion d'adab dans le sens politique. Donc c'est pour cela qu'on estime que les miroirs des princes sont en quelque sorte relèvent justement de en quelque sorte de ce genre d'adab, mais en mettant l'accent, se focalisant sur les aspects purement politiques, donc liés à la sphère de l'État. Donc pour saisir la singularité de ce genre par rapport à d'autres tradition qui se développe de manière concomitante à l'âge classique de l'islam. Donc il y a une autre citation qui arrive, mais je pourrais vous en parler pour ne pas perdre du temps. Donc pour saisir justement la spécificité de cette littérature politique donc des Adab Sultaniya, je voudrais préciser qu'elle se développe parallèlement à trois autres traditions. Donc il y a trois types de réflexions qui sont très fortes, mais plus ou moins intéressantes, et qui concernent tout le domaine du politique. Alors je commence par, si vous voulez, la tradition la plus connue, parce que généralement, quand on parle de la pensée politique de l'islam, eh bien, on met en avant cette tradition, puisqu'elle repose sur les textes sacrés, c'est-à-dire sur la lecture des textes sacrés, ou bien puisqu'elle déduit donc les règles de gouvernement, les normes, d'une manière générale, à partir de ce qui se trouve dans le texte coranique, de ce qui se trouve dans les traditions attribuées au prophète, donc les dits attribués au prophète, ou bien de ce qui se trouve, si vous voulez, dans les différentes élaborations des juristes entre le 7e et le 8e siècle, vraiment au tout début de l'islam. Donc cette tradition, c'est la tradition juridique, qui réfléchit sur la norme et l'exception principalement. Donc il va traiter des offices de gouvernement, des différentes institutions, par exemple comment accéder au poste de commandement suprême de la communauté, donc ce qu'on appelle l'imama. Donc, elle aborde également la question du ministère, donc le vizirat. Elle aborde la question des finances. Elle aborde la question de l'armée. Elle aborde les différents, si vous voulez, différents offices de gouvernement, les différents organes de l'administration. Donc, c'est en quelque sorte la tradition de, disons, de droit public et administratif. Et celui qui l'illustre parfaitement bien, c'est un auteur qui thématise un peu ces donc ces différentes réflexions et qui produit un livre qui est resté en quelque sorte indépassable dans la tradition juridique. Il s'appelle Mawardi et ça a été traduit au 19e siècle, enfin à partir du 19e siècle, par pas mal de penseurs européens sous le titre de Statuts gouvernementaux. Donc le livre s'intitule Al-Ahkam Sultaniya, les statuts gouvernementaux. Donc là nous avons une première tradition, c'est celle du droit. Donc la plus connue peut-être. Ensuite, il y a une autre tradition qui est celle de la théologie, c'est-à-dire la réflexion qui émerge dans le sillage des conflits ayant opposé les premiers musulmans suite à la grande discorde, al-Fitna al-Kubra. Donc là, c'est une guerre civile qui a opposé les premiers musulmans, donc juste après la naissance de l'islam, au milieu du 7e siècle. Et là, nous avons une tradition politique, entre guillemets, je la mets entre guillemets parce que, à mon avis, elle est vraiment loin d'incarner donc une véritable réflexion politique. Donc, mais en tout cas, elle a l'ambition en fait de se constituer donc en tradition politique et d'aborder des sujets politiques, mais à partir de l'histoire de la fitna, donc de la guerre civile, de la discorde entre les premiers musulmans. Et donc cette tradition-là, c'est la tradition théologique de l'imama, la réflexion sur l'imama. Il y a beaucoup de traités sur l'imama. Et ce qui la distingue, en fait, en quelque sorte, c'est un peu le caractère hagiographique, c'est-à-dire que, il y a tout un débat, tout un conflit entre les différentes branches de l'islam après les premiers schismes, entre principalement les sunnites, les kharijites, les chiites. Donc, vous voyez, tout cela, si vous voulez, émerge au premier siècle de l'islam et donne lieu, en quelque sorte, à une véritable réflexion un peu limitée sur le plan politique, mais qui se nourrit fortement des débats religieux, des conflits, des schismes, et bien évidemment qui repose sur la lecture de l'histoire, hein, la lecture de l'histoire du conflit entre Ali et Muawiya principalement. Donc, et le passage, si vous voulez, de ce qu'on appelle le gouvernement des califes bien guidés à celui donc du gouvernement dynastique des Omayyades de Damas. Donc ça, c'est la deuxième tradition de pensée politique. Et la troisième, c'est celle de la philosophie politique. La philosophie politique est incarnée par des noms célèbres comme Al-Farabi, 10e siècle, mort en 950, ou bien Averroès, mort en 1198. Donc là, nous avons, si vous voulez, une réflexion qui s'inscrit un peu dans l'héritage platonicien et aristotélicien, et qui qui va se nourrir justement de la traduction des ouvrages des philosophes grecs, afin d'engager donc une réflexion sur la cité. Et ce qui caractérise cette réflexion, cette tradition par rapport au droit ou bien par rapport à la théologie, à la tradition théologique, c'est que, eh bien, elle repose sur la science. C'est-à-dire, elle étudie la science, principalement la métaphysique, la noétique, la biologie. Donc, elle a une tendance, si vous voulez, à se constituer en véritable réflexion scientifique sur la politique. Vous voyez, donc, et elle repose sur, disons, sur certaines sciences qui sont tout à fait démonstratives. Et donc, à partir de là, on comprend pourquoi, eh bien, Al-Farabi fait précéder ses traités sur le gouvernement civil ou bien sur la cité parfaite. Il fait précéder tout cela d'une forte réflexion sur la métaphysique et sur la cosmologie. Voilà. Là, nous avons donc trois traditions. Et la quatrième, qui émerge au même moment, c'est celle dont je vais vous entretenir aujourd'hui, donc qui porte sur les miroirs des princes. Et là, vous voyez à travers cette citation. Cette citation est très, très parlante, en fait, elle est d'un auteur, d'un historien et d'un auteur d'un miroir des princes qui porte donc d'ailleurs le titre de Adab Sultaniya, Al-Fakhri fil Adab Sultaniya, Wad-Dual al-Islamiya, donc le glorieux en matière de règles de la conduite du pouvoir politique et de description des États islamiques. Donc c'est un texte qui est écrit au XIIIe siècle, donc à un moment, disons, de l'accomplissement, de la stabilisation un peu de cette tradition. Et donc ce passage, d'Ibn Taqtaqa se situe la réflexion sur le politique par rapport à la tradition juridique, par rapport à la tradition de l'imama, justement. Donc vous voyez, il dit: ce livre ne porte pas sur l'origine du pouvoir, ni sur sa nature ou sa division en commandements relatifs à l'ici-bas et d'autres touchant à l'au-delà. Il ne s'intéresse pas non plus aux questions portant sur le califat, le sultanat, la principauté ou l'investiture relative à une charge politique. Notre livre ne s'intéresse pas non plus aux opinions des différentes doctrines sur la souveraineté, imama, donc c'est ça la tradition théologique. Il traite plutôt des arts gouvernementaux, siyasat, et des règles de conduite, adab. Donc vous voyez, on retrouve le mot siyasa, qui veut dire gouvernement politique, et le mot adab ou adab, qui veut dire les règles. Donc il traite plutôt des arts gouvernementaux et des règles de conduite, dont on tire profit pour comprendre les événements contingents et le cours des choses. Comprendre les événements contingents et le cours des choses. Il traite également du gouvernement des sujets, de la consolidation du royaume, ainsi que de la réforme des mœurs et des conduites. Donc vous voyez un petit peu l'esprit dans lequel s'inscrit Ibn Taqtaqa, afin donc de préciser la nature de son approche par rapport à d'autres traditions qui étaient là, que l'islam, en tant que civilisation, a de fait donc développé pendant plusieurs siècles. Et donc, ce qui va caractériser justement cette tradition dès sa naissance, c'est une forme de pragmatisme, une forme de positivité. On réfléchit sur les règles concrètes, effectives, du gouvernement et de l'administration de l'État. Alors, vous le voyez très bien à travers cette belle phrase qui dit: il traite plutôt des arts gouvernementaux et des règles de conduite dont on tire profit pour comprendre les événements contingents et le cours des choses. Donc, nous ne sommes pas dans une réflexion normative comme celle des philosophes, par exemple, ou bien des juristes. Nous ne sommes pas non plus dans une réflexion qui engage les débats géographiques sur l'excellence de tel ou tel calife par rapport à un autre. Nous sommes plutôt dans une réflexion positive sur la manière de bien gouverner l'État, vous voyez, de bien l'administrer, afin donc d'éviter, bien évidemment, que le pouvoir ne soit perdu par le prince, mais parallèlement afin de réaliser les fins de bon gouvernement, parce qu'il y a quand même une fin, un télos. Donc nous sommes aussi dans une littérature un peu conditionnée par une forme de téléologie, si vous voulez. Il y a toujours des finalités, à la fois morales et politiques, qu'il faudrait donc assurer auprès des gouvernés, parce que les gouvernés aussi expriment des attentes. Et donc il y a une forme de contrat de gouvernement, même si nous sommes loin de, si vous voulez, des formes de contractualisme qui seront développées à partir du XVIIIe siècle, par exemple dans le contrat social de Rousseau, mais il n'en restait pas moins que nous sommes aussi dans une forme de contrat tacite caché entre le gouvernant et les gouvernés. Donc là, cette tradition va se mettre en place à partir, disons, du VIIIe siècle, et je vais vous expliquer rapidement ses origines, donc d'où elle est venue, justement, comment elle s'est installée en islam. Et donc ça, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je vais me pencher sur les principales caractéristiques de cette tradition. Donc je vais essayer de vous donner quelques éléments donc forts qui traduiraient en quelque sorte l'esprit du genre et vous donneraient en fait une idée du contenu de ces textes. Alors en ce qui concerne la première partie donc qui va aborder les origines des arts de gouverner en islam, il faut savoir que nous avons trois textes fondateurs, donc qui sont vraiment au fondement de cette tradition et qui peuvent être aussi considérés d'une certaine manière comme des miroirs, même si ces textes en fait sont à la base étrangers, c'est-à-dire qu'ils proviennent donc d'autres cultures, principalement la culture perse. Et donc parmi ces textes, il y a bien évidemment le fameux Kalila et Demna, ensuite le testament d'Ardashir, et enfin les lettres d'Aristote à Alexandre. Alors, le fameux Kalila et Demna, que vous connaissez peut-être, est un ouvrage de fable, donc d'origine indienne, qui a été composé par un philosophe du IIIe siècle, un philosophe un peu obscur qui s'appelle Bidpai. Donc là, c'est un peu la tradition orientale des fables. L'autre tradition, c'est celle qui remonte à Ésope et qui va donner les fables de La Fontaine, comme vous le savez. Et donc là, nous avons un texte de fable, mais dont le contenu n'est pas seulement littéraire, mais également politique. Il y a un fort contenu politique et moral qui est vraiment présent dans ce texte, et cela est exprimé d'ailleurs dans l'introduction. Il y a même plusieurs introductions, enfin dans les différentes introductions, à la fois du philosophe, mais aussi du traducteur, et puis même de celui qui l'a cherché, un vizir donc perse qui l'a cherché en Inde, qui est parti le chercher en Inde en secret, et qui a réussi à le ramener donc au XVIe siècle pour l'offrir donc au roi perse Khosroès, dit Anushurman. Donc là, nous sommes, si vous voulez, nous sommes en présence d'un premier texte qui est un texte majeur qui va exposer en quelque sorte l'éthique de cour, parce que le premier grand chapitre qui occupe presque la moitié du livre aborde l'éthique de cour, donc comment se conduire au sein de la cour. Il aborde la question de l'envie, de la jalousie, donc toutes les passions, si vous voulez, qui à la fois disons construisent mais aussi défendent le milieu du pouvoir. Il aborde également la question du gouvernement de soi et des autres. Et surtout, ce texte repose sur, disons, le dialogue entre le philosophe Bidpai et le roi d'Abshalim, le roi qui était au départ un roi injuste, tyrannique. Et donc, le rôle du philosophe sera de corriger en quelque sorte la conduite du prince, la conduite du roi. Et c'est à partir de là qu'émerge justement les fables, la série des fables qui sont racontées dans ce texte. Parce qu'à chaque fois, eh bien, le roi d'Abshalim, donc le prince, demande au philosophe de lui expliquer quelque chose sur, par exemple, l'inimitié, l'hostilité, l'amitié, donc des principes, disons, de morale et de politique. Et à chaque fois, donc, le philosophe va énoncer le principe, la maxime de sagesse, donc la maxime de gouvernement, et après, il va l'illustrer par des fables. Et là, à l'intérieur des fables, nous avons aussi donc une série de récits, de fables secondaires, qui s'emboîtent, si vous voulez, dans le récit mère. Et donc, c'est à partir de là, si vous voulez, que se construit le texte de Kalila et Demna, qui contient, dans la tradition arabe, 14 chapitres. Alors, il faut savoir que Ibn al-Muqaffa, le traducteur de ce texte, l'a augmenté donc de quelques chapitres, apparemment. C'est une question un peu pas très certaine, mais en tout cas, il y a des rajouts, si vous voulez, par Ibn al-Muqaffa ou bien par d'autres traducteurs. Et il faut savoir également que ce texte, donc là, je vous montre quelques illustrations parce que ça faisait partie, si vous voulez, des rares textes qui étaient illustrés dans la tradition du livre arabe. Il y a de belles illustrations donc qui illustrent les fables et qui accompagnent le texte. Et il faut savoir que ce texte a été traduit donc en latin, par Jean de Capou, et qu'il a, à partir d'une version hébraïque, et qu'il a irrigué en quelque sorte la pensée latine également, parce que donc c'est l'un des textes majeurs qui contient justement cette pensée morale et politique de l'Orient, et on peut le remarquer donc au niveau de la traduction du choix du titre donc en latin. Donc Jean de Capou a choisi le titre de Directorium Vitae Humanae, donc de la conduite de la vie humaine ou bien de la direction de la vie humaine. Donc vous voyez très bien que nous sommes véritablement dans une approche philosophique du texte et non pas purement littéraire. Bien évidemment, il y a la dimension littéraire, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, puisque cela n'est pas du tout notre sujet. Alors, le deuxième texte est celui qui est écrit par le roi Ardashir. Donc, je vous disais, voilà, le testament d'Ardashir. Il faut savoir que Ardashir est un roi perse du IIIe siècle qui arrive, en fait, après plusieurs siècles d'anarchie, de division de l'Empire perse suite aux conquêtes d'Alexandre le Grand, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, ce que va faire, en fait, Ardashir, c'est d'unifier, en quelque sorte, politiquement, l'Empire perse sous la dynastie sassanide. Et il va léguer à son fils Shapur un testament, très court, une centaine de pages par là, dans lequel, en fait, il y a un condensé de maximes, de réflexions. Donc, en tant qu'homme de pouvoir, donc d'homme politique, il va léguer, si vous voulez, une série de réflexions à son fils. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est deux choses. D'abord, il y a des réflexions sur la guerre, donc la conquête, l'unification, sur les dangers de la division, de la guerre civile. Mais également, il y a un autre versant qui est relatif à la religion, parce que il faut savoir que Ardashir a vécu donc au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, qui est un moment de forte effervescence religieuse en Perse. Juste après, en fait, sa mort, il va y avoir la naissance de la prédication de Mani, hein, du prophète Mani, qui va, donner lieu à une religion, à une nouvelle religion, qui est composée en fait à partir du christianisme et du zoroastrisme. Et donc là, il y a un climat de forte effervescence religieuse qui va amener Ardashir à réfléchir également sur la place de la religion au sein de l'Empire. Et donc là, à théoriser en quelque sorte le rapport entre le politique et le religieux, comme on dit aujourd'hui. Et là, c'est très intéressant parce que ces réflexions vont également irriguer l'ensemble de la tradition arabe et particulièrement celle des Miroirs des Princes. Je citerai tout à l'heure une belle maxime qui est reprise en fait pratiquement par tous les auteurs des Miroirs des Princes arabes. Donc là, c'est la deuxième source d'inspiration de cette tradition. Et enfin, vous avez les lettres d'Aristote à Alexandre, qui, en fait, c'est un ensemble de textes attribués, donc d'épîtres, attribués à Aristote. À Aristote, il y a tout un débat autour de certaines lettres, autour de l'authenticité de certaines lettres, donc pas chez les spécialistes. Mais en tout cas, pour l'instant, on estime que la plupart des lettres sont plutôt apocryphes et qu'elles sont le produit de la période hellénistique ou bien de la période perse, si vous voulez, par des auteurs perses. Donc elles auraient été écrites par des perses pendant la période hellénistique, ou bien il y aurait peut-être une origine grecque qui aurait transité par le syriaque éventuellement. Le syriaque, c'est une autre langue sémitique qui était répandue en Orient juste avant la naissance de l'islam et même un petit peu après, notamment dans les milieux philosophiques qui abordaient les disciplines de logique ou bien de morale. Et donc là, nous avons, si vous voulez, une série de textes qui seront disponibles au début du 8e siècle. Alors, tous les textes dont j'ai parlé ont été traduits pendant la première moitié du 8e siècle. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant dont je parlerai dans un instant. Donc, ce texte attribué à Aristote est également intéressant dans la mesure où il repose, encore une fois, sur ce tandem du prince et du philosophe. Donc Aristote n'est pas seulement le maître d'Alexandre, comme c'est le cas dans la tradition historique et dans la tradition philosophique, ce n'est pas seulement le précepteur d'Alexandre, donc ça c'est une information qui est historiquement avérée et attestée, mais il est également dans la tradition orientale, il est en quelque sorte son conseiller, certains disent même son substitut, son calife, hein, donc on utilise le mot calife pour dire substitut, enfin représentant, quand il était parti donc en Orient pour réaliser des conquêtes et surtout défaire l'Empire perse. Donc Aristote, si vous voulez, n'a pas cette image uniquement de philosophe, mais il est également conseiller, homme politique, vous voyez, et surtout quelqu'un qui prend part pleinement au gouvernement de l'Empire d'Alexandre. Parce que ces lettres, en fait, reposent sur des questions envoyées par Alexandre à Aristote pour lui dire, par exemple, qu'est-ce que je fais des Perses, des nobles Perses, de la famille des nobles Perses, une fois qu'ils ont été vaincus, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je dois les réduire en esclavage? Est-ce que je dois les tuer, les mettre à mort? Est-ce que je dois les laisser en vie? Et donc, si vous voulez, Alexandre le Grand se pose la question, donc à propos de pas mal de choix politiques, d'options politiques. Donc le souverain, le prince, devrait prendre une décision importante pour justement pour pouvoir conserver son gouvernement, son nouveau pouvoir. Et là, ce qu'il fait spontanément, c'est de s'adresser au philosophe. Donc le philosophe, en quelque sorte, se présente comme celui qui planifie la politique du conquérant, celui qui donne des solutions concrètes, qui donne des conseils effectifs donc en matière de gouvernement. Et vous voyez que là, nous sommes donc dans une optique extrêmement intéressante qui va revenir d'ailleurs dans la tradition des miroirs des princes, donc dans la tradition arabe, sous une autre forme que j'aborderai tout à l'heure. Donc là, vous voyez, nous avons trois textes qui sont extrêmement intéressants, et c'est à partir de ces textes eh bien, que nous allons avoir, toute la série des textes, à peu près une centaine de textes. Alors, j'ai dénombré à peu près une centaine de textes en langue arabe produits entre le 8e et le 15e siècle. Donc, juste une petite statistique qui donne une idée de l'ampleur de cette tradition donc, des miroirs des princes. Et après, il faut savoir qu'après, certains textes seront traduits en turc ou bien en persan, notamment entre le 15e et le 16e siècle, et qu'ils vont bien évidemment servir de base à la réflexion des auteurs, des intellectuels ottomans, donc à l'époque moderne. Alors, il faut savoir aussi que cette tradition, comme je l'avais dit rapidement à propos de Kalila et Demna, cette tradition va influencer également les latins. J'ai parlé de Kalila et Demna et de la traduction faite par Jean de Capoue, mais il faut savoir que les lettres d'Aristote à Alexandre ont été également à l'origine d'un autre texte qui s'intitule « Le secret des secrets »,« Secretum Secretorum », qui est un texte donc issu, en quelque sorte, ou qui reprend les épîtres d'Aristote à Alexandre, mais donc de manière un peu réduite, c'est-à-dire qu'il y a quelques fragments, quelques textes qui sont là, mais en tout cas, on retrouve un peu ce dialogue entre Aristote et Alexandre. Et ce texte, il faut le savoir, c'est vraiment très intéressant, ce texte va circuler donc dans le monde latin pendant plusieurs siècles, et c'est le texte le plus lu. On le sait très bien à partir de nombre des versions donc, qui ont été éditées, copiées. Donc c'est le texte le plus lu pendant le Moyen-Âge chez les latins. Donc vous voyez un petit peu, vous imaginez un petit peu l'influence qu'a pu exercer ce texte. Alors, il a été compilé par Roger Bacon, ou bien Bacon, après, au XIIIe siècle, après donc la traduction qui a été faite au XIIe siècle, à ma connaissance. Et ce texte, en fait, va en quelque sorte fonctionner comme une sorte d'encyclopédie des savoirs, c'est-à-dire qu'il va allier la politique à une réflexion sur la médecine, sur la physiognomonie, sur des sciences occultes comme la magie. Donc plusieurs, si vous voulez, une série de sciences, bien évidemment l'histoire, l'histoire des conquêtes d'Alexandre, l'histoire politique, vous voyez. Donc là, nous avons une sorte d'encyclopédie des sciences extrêmement ramassée, extrêmement condensée, qui va bien circuler chez les latins, mais qui a son archétype, comme je viens de le dire, chez les arabes à l'époque médiévale. Donc juste pour vous, pour mentionner l'intérêt justement de cette tradition, là vous avez quelques maximes qui se trouvent dans le secret des secrets, ces maximes qui ont été surnommées dans la tradition arabe l'octogone de la justice, ou bien le cercle de la justice. Eh bien, ces maximes qui se trouvent dans ce texte disent la chose suivante. Donc là, c'est le texte arabe du secret des secrets, et en fait, c'est vraiment le condensé de l'art de gouverner. Donc ces maximes sont présentées comme le condensé de l'art de gouverner en islam. Eh bien, ces maximes disent: le monde est un jardin et l'État son enceinte. L'État est l'autorité qui donne vie à la tradition. La tradition, ça peut être traduit par loi également. La loi, en arabe, c'est sunna. La loi est la politique que suit le souverain. Le souverain est l'ordre que soutient l'armée. L'armée est faite d'agents entretenus par la richesse. La richesse est formée par le gain des sujets. Les sujets sont des serviteurs sous la garde de la justice. La justice est chose connue. Elle est le pilier du monde. Le monde est comme un jardin, etc. Et on retrouve un peu le début. Donc, vous voyez, une forme de circularité qui nous fait donc passer du début à la fin des maximes. Donc, il s'agit de 8 maximes de gouvernement qui résument en quelque sorte la manière d'articuler les différentes sphères de la morale, de l'économie, des finances, de l'armée, de la stratégie, de la prospérité. Vous voyez, donc tout est contenu dans ces 8 maximes. Et ce n'est pas étrange de voir que qu'un penseur célèbre comme Ibn Khaldoun, justement, en fait la citation est tirée d'Ibn Khaldoun, mais vous voyez pas très bien la référence parce qu'elle est donc elle ne figure pas sur l'écran. Ne paraît pas. Donc, la citation est tirée de Ibn Khaldoun, des prolégomènes, donc page 258, traduit par Abdesalam Shaddadi dans les éditions de la Pléiade. Donc, juste après cette citation, Ibn Khaldoun, qui a, si vous voulez, étudié les différentes traditions de la pensée politique en islam et qui a cherché à inaugurer un domaine jusque-là inconnu, donc c'est ce qu'il affirme, parce qu'il était conscient de la, disons, de la nouveauté de son propos par rapport aux traditions que j'avais donc décrites tout à l'heure, à savoir la tradition de la théologie, la tradition juridique, la tradition philosophique et la tradition des miroirs des princes. Et donc Ibn Khaldoun pense que son travail, justement, va aborder des contrées jusque-là inconnues, et il va baptiser ces contrées-là donc la science de la civilisation humaine, Ilm al-Umran al-Bashari, donc la science de la civilisation humaine, et il va l'articuler donc autour de la question de la rotation entre les deux pôles de la civilisation, à savoir la civilisation agro-pastorale et la civilisation citadine ou urbaine. Donc là, nous avons donc une forte réflexion engagée par Ibn Khaldoun, et c'est ce qui va l'amener justement à produire ce monument qu'est les prolégomènes à l'histoire universelle. Et ce qui est intéressant, c'est que Ibn Khaldoun dit texto que son propos, c'est-à-dire la science nouvelle qu'il cherche à instaurer, est en quelque sorte l'application de ces 8 maximes. Donc c'est le développement de ces 8 maximes de gouvernement contenus dans le secret des secrets, mais seulement les auteurs qui sont arrivés avant lui n'ont pas réussi à la développer. Donc lui, justement, il va chercher à l'illustrer, donc à illustrer la véracité, en quelque sorte, l'intérêt et la pertinence de ces 8 maximes qui se trouvent dans le secret des secrets du pseudo Aristote. C'est bon, ça marche? Génial. Oui. Voilà. Bon, j'espère que ça ne va pas revenir après. Oui, en fait, ça revient tout le temps. Bon. C'est pas grave. Je sais pas ce qui se passe. Excusez-moi pour. Enfin, c'est pas de ma faute, mais. Alors, j'essaie d'avancer un peu vite pour dire tout ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Donc je voudrais maintenant, avant de finir cette première partie, faire trois petites remarques. La première porte sur, en fait, à partir de cette présentation rapide du genre des miroirs des princes et de cette tradition de pensée politique, faire trois petites remarques. La première concerne le contexte. Ensuite, il y a une remarque qui concerne la question de l'originalité. Enfin, donc une remarque qui concerne les instruments majeurs de l'éducation du prince, c'est-à-dire quel est le contenu de ces traités, de ces textes. Alors, en ce qui concerne le contexte, je voudrais quand même, et malgré tout, insister sur un point que j'avais évoqué rapidement dans mon introduction, à savoir le recours à cette littérature étrangère, à ces sources étrangères, pour fonder donc l'art de gouverner, enfin la réflexion sur l'art de gouverner. Et ce qu'il faudrait dire à ce propos, c'est que là, nous avons les premiers textes traduits, les premiers textes étrangers traduits dans l'histoire de la pensée en islam. Généralement, on évoque le grand mouvement de traduction des œuvres philosophiques, donc des Grecs principalement, mais aussi d'autres peuples, mais en tout cas principalement des Grecs, ou à partir d'Al-Ma'moun, un souverain abbasside très connu, donc au milieu du 9e siècle, vers 830 par là. Donc on attribue à Al-Ma'moun, si vous voulez, l'ordre, l'idée d'avoir donné l'ordre donc à certains traducteurs, mais aussi à certains penseurs, certains philosophes, donc de constituer des groupes afin de traduire l'héritage grec, principalement les œuvres d'Aristote. Mais il faut savoir que ce mouvement a été entamé un peu avant, comme l'avait très bien montré Dimitri Goutas dans son livre Pensée grecque, culture arabe, donc un livre majeur sur la question de la traduction des ouvrages philosophiques arabes. Et ce qu'il faudrait noter donc à ce propos, c'est que la traduction des textes politiques précède de près d'un siècle la traduction des textes philosophiques, c'est-à-dire de tout le corpus de la logique, des mathématiques, de l'astronomie, de la géométrie, de la métaphysique, etc. Donc, toutes ces disciplines arrivent en quelque sorte dans les différents centres du monde musulman, principalement l'Irak, Bagdad, qui était la capitale de l'Empire abbasside. Donc tout cela arrive vers le milieu du IXe siècle et commence à se constituer en véritable tradition donc jusqu'au milieu du Xe, alors que la traduction des textes politiques, donc les textes que j'ai mentionnés tout à l'heure, Kalila et Demna, le testament d'Ardashir, les lettres d'Aristote à Alexandre, tout cela a précédé de près d'un siècle, donc nous sommes au début du 8e siècle, à la fin de la période omayyade et un petit peu au début des Abbassides. Mais le mouvement, comme vous le voyez, donc a été entamé sous les Omayyades, ce qui montre, et c'est là vraiment l'élément le plus important à mon avis, ce qui montre déjà l'ouverture des premiers musulmans, ou des arabo-musulmans, au savoir extérieur, au savoir venu de l'étranger, venu des anciens, si vous voulez, donc les savoirs des anciens. D'ailleurs, il y a une très forte réflexion que je ne pourrai pas développer faute de temps, une forte réflexion sur la place qu'occupent les anciens pour assurer, si vous voulez, une forme de renouveau, de renaissance. C'est un peu le mouvement qui va se reproduire en Occident à l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire l'humanisme, le XVIe siècle. On va revenir, si vous voulez, aux travaux des Grecs, à l'héritage gréco-latin, et on va essayer de lui donner un peu plus d'importance au niveau de la circulation des savoirs, etc. Et donc, dans le monde musulman, il y a déjà une dynamique, un processus qui se met en place à partir du 8e siècle. Et ce qui m'intéresse, en fait, dans la lecture de ce processus, c'est de dire, contrairement à une lecture actuelle qui a tendance à prédominer, qu'on trouve du côté de l'idéologie islamiste, donc c'est de dire que les premiers musulmans n'étaient pas du tout fermés au savoir venu de l'étranger. Ou, pour le dire avec plus de précision, les premiers musulmans, donc dans cette aventure intellectuelle qui a caractérisé les premiers penseurs de l'islam, eh bien, on n'était pas dans le fantasme d'une politique dite islamique. On n'était pas dans le fantasme de quelque chose qui était constitué, qui était donc présent dans les textes sacrés. Personne ne disait, par exemple, non, on va se contenter de ce que dit le Coran en matière de gouvernement, en matière de politique. Personne n'a dit le Coran, c'est notre constitution, comme on peut le lire actuellement chez de nombreux penseurs politiques ou idéologues, plutôt politiques, qui appartiennent donc ou qui relèvent des différents mouvements qu'on nomme islamisme. À l'époque, justement, on n'a pas hésité un instant à aller vers l'acquisition des savoirs de gouvernement, même s'ils étaient produits par les Grecs, par les Perses, par les Hindous, hein, d'autres peuples. Donc on était vraiment dans cette dynamique universaliste et humaniste qui donc repose sur, disons, le désir ardent, la volonté déterminée d'acquérir les savoirs des anciens en matière de gouvernement. Et donc là, c'est un point extrêmement important parce que ça va justement servir de base à au développement de tout le reste. Donc ça, c'est par rapport au contexte. Le deuxième point qui m'intéresse, c'est la question de l'originalité. Alors, généralement, on dit, oui, finalement, cette tradition n'est pas originale parce qu'elle repose justement sur les savoirs des anciens. Il y a beaucoup de choses sur les rois perses, des récits sur Alexandre le Grand, des maximes de sagesse également de provenance perse. Et donc, on estime en fait que finalement, cette tradition n'est pas si originale que ça dans la mesure où elle repose en fait sur la compilation. Donc il y a des détracteurs, en fait, des contempteurs de cette tradition des arts de gouverner en islam. D'autant plus qu'au XXe siècle, il y a eu quand même des lectures qui sont fortement discutables, qui ont été menées par certains penseurs. Donc je pense au philosophe marocain Al-Jabri, Mohamed Abd Al-Jabri, philosophe très, très connu, donc qui a beaucoup écrit sur cette tradition. Dans le cadre d'une lecture globale de l'histoire de la pensée en islam, en fait, les différentes disciplines philosophie, droit, théologie, mystique, morale en islam, politique bien évidemment. Et donc il y a un jugement négatif qui se dégage par rapport à ces textes, qu'il a taxé donc de textes produits par des intellectuels organiques qui étaient là pour soutenir le pouvoir des princes. Donc ils étaient en quelque sorte du côté des princes et non pas du côté des gouvernés ou bien de la population, du peuple, de la masse. Et là, je pense que c'est un jugement sévère que j'ai essayé justement de nuancer et même de le dépasser dans pas mal de travaux. On pourra y revenir éventuellement pendant le débat. Donc là, nous avons, si vous voulez, une question qui est débattue, celle de l'originalité. Alors, ce qu'il faudrait savoir pour répondre un petit peu à cette interrogation, c'est que ces textes, certes, reposent sur, disons, une compilation de l'héritage des anciens, mais c'est ce qui fait en quelque sorte sa nouveauté. Et il faut savoir aussi qu'on fait toujours du nouveau à partir de l'ancien. Hein. Machiavel, par exemple, au XVIe siècle, lorsqu'il se mettra à réfléchir sur le gouvernement de manière un peu sérieuse, et donc il va en quelque sorte inaugurer une véritable tradition qu'on baptisera plus tard la tradition de la pensée politique moderne, il va justement recourir aux textes des anciens. Et donc la réflexion va se tourner vers les Romains, par exemple vers Tite Live. Il va écrire donc les discours sur la première décade de Tite Live, par exemple, et il va nourrir sa réflexion donc par les différents acquis, les différentes conclusions auxquelles ont pu aboutir donc ses prédécesseurs et surtout les anciens. Donc voilà, là c'est par rapport à la deuxième question de l'originalité. Et en ce qui concerne la troisième remarque, celle du contenu, il faudrait savoir que nous avons donc une tradition qui repose principalement, d'un point de vue purement textuel, sur la convocation des récits, c'est-à-dire les récits des grands souverains. Il y a les rois perses, Alexandre le Grand, les souverains de l'islam, bien évidemment, ou même de l'anté-islam. Donc, vous voyez, nous sommes dans une véritable tradition universaliste qui ne stigmatise pas l'anté-islam sous prétexte que c'était l'âge de l'ignorance. Donc, il n'y a pas de, si vous voulez, d'a priori dogmatique ou idéologique. Elle ne stigmatise pas, bien évidemment, le savoir venu de l'étranger, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ce qui intéresse, en fait, ces auteurs, les différents auteurs, c'est tout simplement de puiser dans les récits des anciens, donc les éléments permettant de réfléchir sur la bonne manière de gouverner l'État. Et donc, là, nous avons un fond qui est très important, qui repose sur l'histoire. C'est-à-dire, c'est une tradition, c'est un genre qui repose sur l'histoire, un peu à l'image de Machiavel, justement, qui va instaurer une réflexion, mais elle était déjà présente chez d'autres auteurs, il va instaurer une réflexion qui se fait à partir de l'histoire effective des souverains, de la manière dont ils ont pu gouverner leurs États, ou bien se débarrasser d'un ennemi, ou bien conserver le pouvoir dans un moment critique, ou bien administrer l'État pour réaliser certaines fins de prospérité ou bien de bonheur, donc en ce qui concerne la population. Donc voyez un petit peu, nous sommes dans une approche qui va chercher dans l'histoire des exemples, donc des modèles. Vous voyez, des modèles de conduite. Et le prince devrait méditer ces modèles, donc ces différents cas, donc des différents rois romains, perses, grecs, etc., musulmans. Donc il devrait méditer les différents cas afin de constituer en quelque sorte un fond qui sera une source d'inspiration pour lui, une source d'inspiration pour ses choix, pour ses prises de décision. Vous voyez un petit peu de quelle manière donc on conçoit l'art politique dans cette tradition. Alors cet usage de l'histoire est associé à un autre fond qui est les maximes de sagesse. Et là, vous avez quelques exemples de maximes, c'est-à-dire les maximes de sagesse, ce sont en quelque sorte des proverbes ou des maximes, donc, ou bien des poésies sentencieuses. Mais en tout cas, nous avons des mots qui sont des propositions, pardon, qui sont extrêmement condensées, extrêmement ramassées, et dans lesquelles il y a en quelque sorte une définition extrêmement brève de la manière de se conduire ou bien de la manière de résoudre un problème. Alors je vous donne quelques exemples de maximes. Par exemple, là vous avez la maxime qui dit: celui qui se montre injuste avec lui-même est encore plus injuste à l'égard d'autrui. Une autre maxime dit: La justice est l'armée la plus forte et la sécurité est la vie la plus douce. Donc vous voyez, définition de mots très très forts comme la justice, l'armée, la sécurité, la vie, comment vivre dans un État, dans une société. Et une autre maxime qui revient souvent et qui invite à réfléchir, parce qu'elle elle pèse, si vous voulez, les effets négatifs de deux situations, à la fois le pouvoir violent, le pouvoir tyrannique, et la discorde, la guerre civile. Et ça fait vraiment réfléchir, parce que tous les auteurs, tous les penseurs politiques ont réfléchi sur cette question. Alors la maxime dit, le pouvoir violent est préférable à une discorde, un pouvoir violent, pardon, est préférable à une discorde durable. Donc là, bon, vous voyez, c'est une maxime qui donne l'impression que les auteurs seraient a priori du côté de l'absolutisme ou bien du côté de la tyrannie pour mater la discorde ou bien la guerre civile. Mais en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais en tout cas, ce qu'affirme la maxime, c'est que eh bien, le pouvoir tyrannique est préférable à la discorde. C'est-à-dire que sur l'échelle des mots, si vous voulez mettre les différents mots politiques qui pourraient frapper un État ou bien une société, eh bien, dans cette échelle-là, la guerre civile, c'est ce qu'il y a de pire. La discorde, c'est ce qu'il y a de pire parce que eh bien, ça conduit à l'effritement du corps civil. C'est la mort du corps civil, c'est la mort du corps politique. C'est un peu la stasis, ce que les anciens appelaient la stasis, c'est-à-dire l'effritement, la déliquescence du corps politique. Et une fois que nous sommes dans une guerre civile ou bien dans une discorde, eh bien, cela veut dire que le pacte politique est rompu et qu'après, on ne peut plus le reconstruire. Enfin, on peut le reconstruire, mais ce sera très difficile, si vous voulez, d'y arriver. Et c'est pour cela qu'on estime justement, donc d'après cette maxime, qu'il vaut mieux avoir un pouvoir, un semblant de pouvoir qui puisse maintenir la société dans une forme de cohésion, même en passant par des moyens donc violents, coercitifs, plutôt que de sombrer dans l'anarchie, dans la discorde. Donc voyez un petit peu ce type de maxime. Bon, il y en a beaucoup, mais je vous ai sélectionné quelques-unes qui, à mon avis, sont très représentatives de cette tradition. Alors, dernier point à propos de cette première partie. Donc, je disais, dernier point, celui, justement, de l'association des maximes, ou bien des récits avec les maximes. Et cette association, eh bien, on la constate surtout, comme je l'avais mentionné rapidement tout à l'heure dans l'introduction, on la constate dans le livre majeur qui a vraiment influencé toute la tradition des Miroirs des Princes, dans le monde musulman, donc Kalila et Demna. Et donc dans Kalila et Demna, nous avons, si vous voulez, un plan qui fonctionne de cette manière-là. Le roi d'Abchalim demande au philosophe Bitpai, donc lui pose une question par rapport à la morale ou bien à la politique. Il est intrigué par tel ou tel aspect. Et donc il lui pose la question et après, le philosophe répond en illustrant ce point par des fables, par des récits. En l'occurrence, donc, nous avons des récits, mais qui ne sont pas historiques, mais nous sommes dans les méandres, si vous voulez, de la fiction, de l'imagination. Donc ça fait travailler l'imagination du destinataire des fables. Mais parallèlement, ça permet en fait d'avoir une illustration sensible du contenu qui est plutôt logique, extrêmement dense, extrêmement ramassé, que nous pouvons trouver dans les maximes. Parce que la maxime, vous voyez, ça repose sur une forme de syllogisme. D'ailleurs, linguistiquement, philosophiquement, c'est un syllogisme tronqué. C'est le syllogisme en fait rhétorique qu'on appelle l'antimème. Donc, dans la tradition logique aristotélicienne, qui était fortement développée d'ailleurs par les philosophes arabes. Et donc, à côté de la maxime, de ce syllogisme rhétorique, qui invite à la raison à réfléchir, à méditer sur ces concepts forts de guerre civile, de justice, d'injustice, etc. À côté de cela, eh bien, il y a des fables qui racontent un petit peu donc les aventures des animaux dans la jungle et donc qui présentent en fait des personnages avec, si vous voulez, un parcours, des histoires, etc. Une sorte de psychologie. Donc nous sommes véritablement dans la fiction et donc ça permet à la fois d'associer, si vous voulez, l'agrément des choses qui ont un lien avec l'imagination, avec les sens. Et d'un côté et d'un autre côté, donc les choses qui sont liées à la réflexion, au travail de la raison. Et je peux l'illustrer par un chapitre qui s'intitule « La lionne et le chacal ». C'est une très belle fable, en fait, qui se trouve dans Kalila et Demna. Le roi demande au philosophe, il lui demande de lui expliquer, justement, un principe de morale. Il lui dit « Parle-moi de ceux qui renoncent à faire du mal à autrui, quand le mal les atteint eux-mêmes et qu'ils voient dans leur malheur comme une exhortation à ne plus traiter leurs semblables au mépris de l'équité et de la justice. » Donc, il lui fait cette demande et le philosophe donc, va introduire son propos par une maxime, donc comme un peu semblable aux maximes que j'avais expliquées tout à l'heure. Et après, il va illustrer l'idée abstraite, en quelque sorte, par le récit, par la fiction. Donc, il va raconter l'histoire de la lionne et du chacal. Donc, c'est une lionne qui a perdu ses petits. Et elle va se plaindre, elle est triste, et le chacal lui pose la question sur ce qui lui arrive. Et donc, elle lui explique sa situation. Et là, il lui dit, mais rappelle-toi, souviens-toi, que toi aussi, tu as rendu triste plusieurs mères parce que tu as mangé leurs petits. Tu les as privés de leurs petits. Et donc, morale de l'histoire, il faudrait traiter les autres comme on aimerait bien être traité. Hein ? Donc, le principe moral de la réciprocité. Et là, donc il y a bien évidemment il y a tout un dialogue, plusieurs fables, enfin dans la fable mère. Et à la fin, donc il y a une sorte de thématisation de cette leçon de morale sous la forme d'une autre maxime qui dit donc tu seras traité comme tu traites les autres. Donc là, c'est une maxime qui a circulé dans bien évidemment dans les ouvrages de morale ou bien dans les miroirs des princes. Michel traduit donc dans ce texte on récolte comme on sème, hein, on récolte comme on sème. Et il faut savoir que ce principe éthique de la réciprocité, qui est par exemple qui gouverne plusieurs domaines de la pensée politique, comme la guerre. La guerre est principalement ce qu'on appelle la guerre juste, la tradition de la guerre juste, est gouvernée en quelque sorte par ce principe de la réciprocité. Donc c'est vraiment un principe fondateur de la morale et de la politique. Et Hobbes, juste pour vous montrer l'intérêt de cette réflexion, Hobbes en a fait le principe qui rassemble toute la loi naturelle. Donc il dit dans le Léviathan, donc ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie à toi-même. Donc il suffit de respecter cette maxime pour avoir justement vraiment le cœur en quelque sorte de ce qu'on appelle la loi naturelle et qui est le point de départ de la réflexion des philosophes, qu'ils soient anciens ou modernes, donc sur cette question des arts de gouverner. Voilà, donc là maintenant je vais conclure cette première partie. Je vais conclure cette première partie et je vais essayer de sabrer un peu dans ma deuxième pour aller un peu plus vite et vous dire l'essentiel. Donc, je conclue cette première étape de ma réflexion par l'idée que dans la tradition des miroirs des princes, d'abord arabe mais aussi iranienne, turque. Je connais pas très bien la tradition iranienne et la tradition turque, mais je sais que donc elle a existé même de manière moins, enfin un peu secondaire par rapport à la tradition arabe qui compte beaucoup de textes, hein, entre le 8e, comme je l'avais dit, entre le 8e et le 15e siècle. Donc dans cette tradition, ce qu'il faudrait retenir, c'est que les Arabes avaient bel et bien l'équivalent de ce qu'on appelle actuellement la science politique. Actuellement, quand on veut former un homme politique, par exemple en France, eh bien, il devrait passer idéalement par des institutions, des établissements, qui vont le former dans des disciplines comme le droit, comme l'histoire, hein, comme les sciences politiques. Donc il va faire Sciences Po, il va faire l'ENA, il va faire avoir une carrière, si vous voulez, d'homme politique. Enfin. Et donc, c'est un peu différent aux États-Unis où un acteur de cinéma peut devenir, peut devenir président ou gouverneur. C'est une autre conception peut-être de la politique, mais traditionnellement, disons, traditionnellement, eh bien, il y a une manière de former l'homme politique. Donc, ce qui m'intéresse justement, comme je l'avais dit et j'avais insisté là-dessus dans l'introduction, c'est qu'il y a une culture de la formation de l'homme politique. C'est ça, c'est un peu la culture de l'adab. Vous voyez, donc l'homme politique n'est pas celui, vous voyez, qui peut lire un traité de droit uniquement ou bien qui va lire un corpus de hadith, par exemple, les dix attribué au prophète. Actuellement, il y a beaucoup de penseurs dans le salafisme ou bien dans l'islamisme. Je me permets en fait ces excursions parce que c'est très parlant. Donc beaucoup de penseurs qui vont nous dire, oui, alors la politique en islam, il faudrait la puiser justement du côté de ces textes sacrés. Et beaucoup de gens, malheureusement, on l'a vu après les révolutions, donc en Égypte et en Tunisie principalement, beaucoup de gens s'autoproclament penseurs politiques ou bien prétendent à des postes politiques tout simplement parce qu'ils ont lu une exégèse ou bien un recueil de hadith. Donc voilà, ils pensent qu'ils sont habilités à parler politique ou bien à assumer une fonction politique. Ce ne fut pas le cas justement dans la tradition arabe à l'époque médiévale. L'homme politique, de la même manière que, si vous voulez, que le mathématicien ou le géomètre ou l'astronome ou le médecin, eh bien, devait avoir une formation. Et cette tradition des miroirs, c'était le lieu où se formaient où se formaient à la fois les princes, mais aussi les différentes catégories, les ministres, les secrétaires, surtout les secrétaires, parce que c'est une tradition qui est produite principalement par des secrétaires de l'administration, les juges, les percepteurs d'impôts, les gouverneurs, donc toutes les personnes, si vous voulez, qui étaient amenées à assumer une fonction politique, à être en quelque sorte dans ce travail lié à l'administration de l'Empire ou bien d'une partie de l'Empire. Et cet aspect-là, on l'observe très très bien dans cette citation d'Ibn Taqtaqa, donc qui se trouve dans Al-Fakhri, l'ouvrage que j'avais cité tout à l'heure. Al-Fakhri nous dit, dans l'introduction de son livre, je vais citer à partir du milieu du paragraphe qui dit « Sache ». Donc il explique l'intérêt de la science, il énumère les vertus du prince, et il dit que la science, c'est la troisième vertu après la justice. La première vertu, c'est la justice, ce dont on a besoin pour avoir un bon gouvernant, un bon prince. Prince, c'est dans le sens de souverain, le détenteur de la suprême de la souveraineté. Vous voyez, ce n'est pas le sens du titre de prince ou de sultan ou de calife. Le prince, c'est avec grand P, c'est-à-dire le détenteur de la souveraineté. Donc, ce qui est nécessaire pour la formation du prince, après, disons, la justice et l'intelligence, al-adl et al-aql, ce qui est nécessaire, c'est al-ilm, la science. Et il va définir la science d'une manière extrêmement intéressante. Il va dire, sache qu'on entend par la science chez les rois, par la science chez les rois, ce n'est pas la conception des questions compliquées, ni la connaissance approfondie des sciences, ni l'absorption dans leur poursuite. Muawiya, c'est l'un des premiers souverains de l'islam, de la dynastie Umayyade de Damas. Muawiya dit que c'est vilain pour un roi de chercher à se rendre trop savant dans une seule science. Ce qu'on demande au roi, en fait, de science, c'est qu'il ne soit familier avec elle que dans une mesure qui lui permette d'engager avec les savants des conversations qui amènent la solution des difficultés présentes. Il n'est pas nécessaire pour cela d'entrer dans de minutieux détails. Donc là, nous avons une définition intéressante parce qu'elle rejoint justement l'esprit de l'adab. L'adab dont j'avais parlé tout à l'heure, eh bien, c'est un peu, il est défini d'ailleurs par l'un des lettrés, comme le fait de prendre de tout un peu. C'est Al-Jahd qui le définit ainsi, Al-Akhdhu min kulli shay'in bitaraf. Donc le fait de prendre un tout petit peu de tout. Alors ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que c'est une culture superficielle, c'est-à-dire le fait d'aller picorer dans les différents savoirs, dans les différentes disciplines, un peu de grammaire, un peu de poésie, un peu de prose, un peu d'histoire, un peu de médecine, un peu de logique, un peu de droit, un peu de théologie. Ce n'est pas du tout cet esprit-là, ce n'est pas dans cet esprit-là qu'il faudrait aborder les sciences, mais c'est l'idée d'aller vers les fondamentaux, vers le cœur, en fait, vraiment le cœur de toutes les disciplines, enfin de chaque discipline plutôt, et de puiser dans chaque discipline les éléments nécessaires qui vont permettre donc d'engager une discussion avec les conseillers lorsqu'il s'agit d'aborder une question de stratégie, donc dans laquelle eh bien, toute la vie des populations eh bien, sera engagée, la question de la guerre et de la paix. Si je m'engage dans une guerre, eh bien, je vais exposer forcément la vie de mes soldats ou bien de ma population, si vous voulez, à l'anéantissement, à la mort. Donc là, il s'agit de décisions extrêmement fortes qu'il faudrait prendre dans le cadre donc, si vous voulez, d'une consultation politique avec les ministres, les conseillers, les secrétaires, etc. Et a priori, eh bien, le prince donc, aurait besoin justement de certains savoirs. Vous voyez, donc, et c'est dans ce sens-là qu'il faudrait que le savoir donc, soit général et qu'il y ait une formation générale. Vous voyez un petit peu, d'ailleurs, c'est dans cet esprit-là que plusieurs établissements à l'heure actuelle forment les étudiants dans un esprit général polyvalent, pluridisciplinaire, de manière à pouvoir toucher pratiquement à tous les domaines et à discuter, donc pouvoir discuter de tous les aspects de la vie, économie, finance, droit, théologie, etc., dès lors qu'un problème surgit pendant qu'on gouverne. Et donc, après, bien, dans la suite de la citation, mais que je ne vais pas commenter, il aborde les sciences qui étaient prisées parmi les différents peuples, les Perses, les Arabes, les Mongols, parce que c'est un contemporain des Mongols qui ont mis fin à la dynastie abbasside en 1258, qui ont exécuté le calife de Bagdad et qui ont donc détruit, si vous voulez, le calife abbasside. Donc Ibn Taqtaqa va dire que voilà, les Perses aimaient beaucoup les maximes, les préceptes de sagesse, les belles lettres, l'histoire, la géométrie. Les Arabes avaient un faible, en quelque sorte, pour la poésie, pour la lexicographie, pour la grammaire, donc toutes les sciences du langage. Mais parallèlement, ils aimaient beaucoup l'histoire et la poésie. Enfin, les Mongols aimaient beaucoup les finances, la comptabilité, la médecine, et l'astronomie. Donc là, c'est juste une réflexion sur, disons, sur les sciences qui étaient prisées par certains princes, à des moments particuliers donc de l'histoire, et qui vont en quelque sorte déterminer le développement de différentes disciplines. Il y a des disciplines qui vont connaître un développement extrêmement fort à un moment donné parce que les princes, les mécènes en encouragent le développement et l'approfondissement, alors que d'autres disciplines vont péricliter. Et donc c'est ce que essaie d'expliquer Ibn Tartara. Donc là, nous avons une réflexion sur le contenu de ces textes, et vous voyez très bien, et c'est par là que je voulais conclure la première partie, qui m'a pris pratiquement toute la conférence. Donc on voit très bien qu'il y a, si vous voulez, dans cette tradition des arts de gouverner, une véritable réflexion sur la formation du prince et la nécessaire formation du prince. Donc ce n'est pas donné à n'importe quel individu de prétendre à gouverner alors qu'il est donc il n'est pas muni justement de ses savoirs, de ses préceptes. Donc je passe à ma deuxième partie, en fait, qui ne sera pas aussi longue que la première, maintenant que j'ai essayé de vous donner quand même pas mal d'éléments sur cette tradition de pensée politique. Je vais essayer de me focaliser sur les éléments les plus forts, accrocher en fait les éléments saillants relatifs à la manière d'approcher la politique ou le politique dans les miroirs arabo-musulmans. Et je vais commencer par une petite remarque générale qui porte, sur une comparaison. C'est-à-dire là, je vais saisir la particularité de ces traités en les comparant à la tradition occidentale. Alors, ce qu'il faudrait savoir, donc, c'est deux points fondamentaux. La tradition occidentale, elle est fortement centrée sur ce qu'on appelle la parénétique, c'est-à-dire les sermons, les discours un peu religieux, donc ayant un contenu moral extrêmement fort, extrêmement développé. Et donc, contrairement à la tradition latine, qu'on peut repérer du côté, par exemple, de Jean de Salisbury au XIIe siècle, ou bien de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, par exemple, Saint Thomas est l'auteur d'un miroir des princes qui s'appelle le De Regno, écrit au XIIIe siècle. Plusieurs auteurs en composent. Gilles de Rome a écrit aussi un célèbre traité de miroir des princes au XIIIe siècle également. Donc là, nous avons, si vous voulez, une tradition qui, grosso modo, était centrée sur, l'admonestation du prince, la tradition des miroirs des princes chez les latins. Donc elle était centrée sur l'admonestation des princes et sur le contenu, en quelque sorte, religieux. Il y a beaucoup de citations des textes sacrés, de la Bible, des évangiles. C'est là qu'on puisait, en quelque sorte, les maximes de gouvernement et surtout de morale. Alors que dans la tradition arabe, nous sommes dans une approche beaucoup plus positive de la politique, beaucoup plus positive du gouvernement. Et paradoxalement, donc ça va la rapprocher, je vais le dire tout à l'heure, je vais le montrer tout à l'heure, ça va la rapprocher un peu de ce qui va se produire toujours en Occident, mais à partir de Machiavel, à partir du XVIe siècle. Donc si vous voulez, une science positive de l'État, donc qui réfléchit à la fois sur la souveraineté et le gouvernement. Donc ça, c'est le premier point qui distingue les miroirs arabes des miroirs latins. Ensuite, l'autre aspect qui illustre justement cette recherche de l'effectivité, du pragmatisme, de la positivité, eh bien, c'est le thème de la guerre. Le thème de la guerre est fortement présent dans les miroirs arabes, sous forme de chapitres ou bien de développement assez important. Cette présence de la guerre montre que nous sommes également dans une réflexion sur la souveraineté, sur la question de la conquête. Donc il y a la présence de la conquête. Les figures majeures de la conquête sont là, Alexandre le Grand, les rois perses, donc les Arabes. Et donc il y a une forte présence des réflexions sur la stratégie, sur la place de la guerre, la guerre civile bien évidemment, la ruse, la diplomatie. Alors ce qui caractérise un peu cette tradition, contrairement à la tradition juridique qui est très très connue, ou bien théologique, qu'on essaie de convoquer à l'heure actuelle, quand on parle de la guerre en islam, eh bien on dit spontanément, oui, l'ennemi c'est le polythéiste, donc il y a le territoire de guerre, le territoire de paix, le territoire de guerre, bien évidemment, c'est le territoire des autres, des infidèles, alors que le territoire de paix, c'est le territoire d'islam. Donc là, ce sont des divisions très connues qui actuellement sont plus ou moins réactivées par les mouvements islamistes. Donc contrairement, si vous voulez, à cette réflexion qui était présente dès le 8e siècle, nous avons une réflexion très différente au sein de la tradition des miroirs des princes, qui repose en gros sur l'idée qu'il faut afficher une posture non-violence, mais parallèlement se préparer pour toute forme de guerre, donc à toute forme de guerre. Donc il y a une réflexion sur la nécessité de se préparer à la guerre, mais parallèlement, donc on prône une sorte de pacifisme, entre guillemets, qui repose sur la résolution des conflits, donc qui se fait de manière pacifique, ou bien par la dissuasion, ou par la ruse. Il y a de fort, une forte réflexion sur les ruses, sur les stratagèmes, c'est-à-dire le fait de, si vous voulez, de résoudre un conflit, ou bien d'arriver à mettre fin à une guerre, tout simplement par l'usage des stratagèmes ou bien par l'usage des ruses. Et là, vous avez une belle illustration de cette idée-là dans cette maxime d'Al-Muradi, donc un auteur andalou maghrébin du XIe siècle, qui dit, donc dans un ouvrage qui s'intitule De la politique, Un miroir des princes, il dit: le prince doit épuiser tous les moyens possibles avant de s'engager dans la guerre, car les sages ont dit que les gens les plus perspicaces sont ceux qui ne se lancent pas dans le combat tant qu'ils trouvent d'autres voies pour régler le conflit. Avec la guerre, ce sont des âmes qui sont dépensées, alors qu'avec d'autres voies, on dépenserait des biens. Et vous avez une autre maxime qui se trouve dans le livre d'Al-Abbasi, un auteur du XIIIe siècle, qui a vécu sous les Mamelouks. Donc il dit, donc qui est issu d'ailleurs de la dynastie abbasside, Al-Abbasi dit: le souverain le plus ferme est celui qui ne résout pas les problèmes avec l'ennemi en recourant au combat tant que d'autres voies lui sont offertes. Donc vous voyez un petit peu, nous sommes bel et bien dans une tradition qui prône donc l'évitement de la guerre, la résolution pacifique des conflits, tout en se préparant à l'éventualité du déclenchement de la guerre. Donc ça rejoint un petit peu, si vous voulez, la célèbre maxime latine qui dit « si vis pacem, para bellum », donc si tu veux la paix, prépare la guerre, mais c'est, son esprit est loin d'être belliciste, donc c'est juste l'idée qu'il faudrait dissuaser par la force l'ennemi et donc l'empêcher, si vous voulez, d'engager une guerre, il faudrait que la guerre soit en quelque sorte le dernier recours. Et d'ailleurs, le critère du dernier recours fait partie de ce qu'on appelle la guerre juste, si vous voulez, dans la tradition de la guerre juste. Eh bien, le critère de la guerre du dernier recours en fait partie. Et vraiment, il est fortement présent avec d'autres critères. Voilà. Donc, je termine avant de terminer le dernier point, je voudrais rapidement vous montrer un peu le contenu, mais j'aurai pas le temps. Donc là, c'est le contenu de certains textes qui montrent à quel point, eh bien, nous nous rapprochons beaucoup plus des traités machiavéliens ou un petit peu pré-machiavéliens, mais en tout cas, il y a cette science positive de l'État qui est présente déjà dès le 8e siècle sous forme un peu fragmentée, éclatée certes, mais qui sera un peu systématisée dans les réflexions des auteurs à partir du 10e, 11e siècle. Et là, c'est un traité justement du 11e siècle qui est écrit par Al-Mawardi, que j'avais traduit et publié l'année dernière donc chez Les Belles Lettres, et qui s'intitule « De l'éthique du prince et du gouvernement de l'État ». Et si on regarde un peu le contenu, vous allez voir eh bien, que nous sommes très proches du contenu que nous trouvons donc chez les auteurs occidentaux, français, italiens, espagnols, du XVIe et du XVIIe siècle. Alors, je ne veux pas, bien évidemment, forcer le trait et faire en sorte que cette tradition, que les Arabes ont pu découvrir un contenu que les Européens vont découvrir plusieurs siècles plus tard. Ce n'est pas du tout mon intention, mais tout simplement, il y a quand même des thèmes, si vous voulez, une manière d'approcher la politique et les arts de gouverner qui rappellent beaucoup plus ce que nous allons trouver du côté de Machiavel ou bien de Francis Bacon. Par exemple, là, c'est les essais de morale et de politique de Francis Bacon, donc auteur du XVIIe siècle, ou bien Le prince de Machiavel. Vous regardez un petit peu le contenu du prince de Machiavel, les différents chapitres, vous allez voir qu'il y a des choses sur la dissimulation, sur le secret, sur la parole du prince, sur la guerre, bien évidemment, sur les qualités du prince. La qualité du prince, par exemple, quelles sont les bonnes qualités du prince? Est-ce la libéralité ou bien l'avarice? Est-ce la cruauté ou bien la clémence? Tout ce contenu moral et politique, eh bien, est bel et bien développé. Par exemple, si vous prenez le traité de Mawardi, vous allez voir que nous avons une réflexion. Regardez un petit peu, il y a des choses sur la dissimulation, l'éthique du prince, les qualités contraires, d'ailleurs, dans lesquelles il aborde les mêmes thèmes que je viens de dénoncer donc à partir de Machiavel, la question du conseil, la question de la parole donnée, le respect des pactes, etc. Donc là, nous avons, si vous voulez, un contenu qui nous rapproche beaucoup plus des traités donc du XVIe et du XVIIe siècle, d'autant plus que il y a cette réflexion sur la guerre et donc sur la raison d'État, la manière de conserver le pouvoir, ce qu'on appellera dans la tradition du XVIIe siècle donc européen, donc les traités de la raison d'État, qui seront, si vous voulez, principalement publiés en France et en Italie, par exemple, il y a le travail de Botero, de la raison d'État, ou bien de Gabriel Naudet en France, ou bien du cardinal de Mazarin. Donc, si vous voulez, une série de textes qui contiennent cette réflexion sur la souveraineté, dont nous trouvons le pendant, en quelque sorte, plusieurs siècles avant, même si, bien évidemment, le contenu n'est pas aussi systématique et même si aussi les traités européens apportent donc un contenu tout à fait inédit, tout à fait nouveau, par rapport à ce que nous trouvons chez les Arabes. Donc, je vais essayer d'aller vite pour aborder le dernier point, qui est relatif donc à qui est relatif à la question, si vous voulez, du contenu, quelques éléments intéressants des Miroirs des Princes. Et je vais commencer par ce point qui est la distinction entre gouverner et régner. Alors, pour introduire ce point, je voudrais rappeler que traditionnellement, en fait, quand on aborde la politique en islam, eh bien, on évoque souvent la figure du prince absolu d'un pouvoir. On évoque donc, si vous voulez, un type de pouvoir qui est finalement monocratique, donc qui appartient à une seule personne. Et on dirait qu'une seule personne gouverne. Il y a aussi une seule personne prend les décisions, donc c'est un peu le cliché du despote oriental. Il y a aussi, bien évidemment, une autre image qui parcourt certains textes ayant abordé la pensée politique en islam. C'est l'image un peu du pouvoir divin, du calife, qui est un peu l'équivalent du pape, ou bien qui a un pouvoir qui incarnerait un peu le césaropapisme, c'est-à-dire un mélange à la fois de politique et de religion. Et donc, ça donne une image, en fait, du souverain en tant que, disons, figure religieuse, guide, qui non seulement planifie la politique de l'État, qui administre l'État, mais parallèlement, gouverne les âmes donc de la population, enfin, des individus qui tombent sous son pouvoir. Bien, là, nous avons deux images qui sont contradictoires, mais qui sont quand même présentes dans la littérature qui aborde les arts de gouverner en islam. Et je pense qu'il faudrait bien évidemment aller au-delà de ces deux images un peu négatives et dépréciatives du politique en islam. Et le point qui va me permettre d'illustrer un peu cette troisième voie, cette troisième lecture, c'est la présence, dès le 8e siècle, à la fois au niveau de la théorie, c'est-à-dire dans les textes ayant théorisé les arts de gouverner, mais aussi au niveau des pratiques historiques effectives, c'est-à-dire si on étudie l'histoire, eh bien on va constater, on va conclure, si vous voulez, à l'existence de cette chose-là. Et donc cette chose-là, c'est la distinction entre régner et gouverner. Régner, c'est-à-dire tout ce qui relève en fait du métier du prince, la direction de l'armée, la conquête, la conservation de la souveraineté, le maintien du pouvoir au sein de la dynastie, qui peut aller jusqu'à des formes cruelles, cyniques de raison d'État, par exemple massacrer une partie de la famille régnante, se débarrasser d'un ennemi proche, d'un frère, d'un père. Donc tout cela, bien évidemment, ça nous rappelle un peu les pratiques des Romains, ou bien un peu plus tard des Ottomans, qui ont carrément, normalisé juridiquement, même d'un point de vue théologique et juridiquement, cette question du meurtre des princes héritiers. C'est quelque chose d'atroce, mais donc ça a été intégré un peu dans la réflexion sur la souveraineté et sur le métier du prince. Et donc nous avons d'abord ce versant qui est lié un petit peu au métier du prince et l'autre versant qui est lié au métier du gouvernant. Et il y a quand même une distinction dans cette tradition des arts de gouverner entre les deux compétences. C'est-à-dire que contrairement à cette image du pouvoir absolu du prince monocratique qui totalise en fait toutes les compétences et qui concentre dans ses mains tous les pouvoirs, on peut observer dès le 8e siècle une forme de délégation de pouvoir. Et ce qui permet d'illustrer cette délégation de pouvoir, d'ailleurs c'est un concept juridique et politique qui a été fortement théorisé dans les textes de l'époque, ce qui permet d'illustrer, c'est tout simplement la présence d'une institution très forte dès le 8e siècle qui s'appelle le vizirat, le ministère, à laquelle justement le fameux, si on prend l'exemple du fameux Harun al-Rashid, qui est vraiment le moment fort de la mise en place de cette institution. Donc Harun al-Rashid, à la fin du 8e siècle, va déléguer le pouvoir, les tâches de gouvernement, les tâches d'administration à une famille célèbre qui avait effectivement la maîtrise des arts de gouverner, qui s'appelle les Barmécides ou bien les Barmakides. Et donc là, nous avons une sorte de distinction entre les tâches de régner et les tâches de gouverner que nous allons retrouver uniquement dans l'histoire des idées politiques entre, disons, le XVIe et le XVIIe siècle. Donc, vous voyez un petit peu la modernité précoce, entre guillemets, des Arabes ou bien des musulmans en la matière. Bien évidemment, cela engage en fait des réflexions sur les rivalités entre le prince et son ministre ou bien son vizir, comme vous pouvez le voir à travers ces quelques réflexions sur d'Ibn Taqtara ou bien d'Al-Mawardi sur la condition tragique du ministre, parce qu'à la fois il est chargé du gouvernement, mais parallèlement il peut convoiter la place du prince et donc il peut avoir des ambitions politiques et donc il est toujours exposé à la fois vis-à-vis de la population parce que c'est lui qui est responsable de la mise en place de l'administration, de la mise en œuvre en fait de la politique du prince donc d'un point de vue administratif, mais parallèlement il est exposé aussi donc du côté du prince parce que il peut tout simplement perdre la vie, il peut mourir si jamais en fait le prince découvre bien que qu'il nourrit des ambitions pour arriver au pouvoir ou bien pour prendre sa place. Donc voilà, je passe sur ces questions extrêmement extrêmement intéressantes, mais bon, parce que je n'ai plus beaucoup de temps pour vous parler du dernier point qui est donc la place de la religion dans les miroirs des princes. Et là encore, il y a disons un poncif qui parcourt la littérature secondaire sur le pouvoir divin. C'est-à-dire, on identifie généralement la politique en islam à une forme de gouvernement qui s'inspire directement de Dieu. On invoque un peu la justification du pouvoir par une origine divine. Et donc, on est constamment dans cette idée selon laquelle il y aurait une fusion entre le théologique et le politique en islam. Une sorte d'indistinction, d'impossibilité de désintriquer un peu ces deux domaines, ces deux aspects, ces deux sphères. Et généralement, on part d'une maxime, très belle maxime à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure dans l'introduction, qui se trouve dans le testament d'Ardashir, donc le fameux souverain sassanide du IIIe siècle de notre ère. Donc Ardashir dit, dans le testament qu'il lègue à son fils, il dit « La religion et la souveraineté sont deux sœurs jumelles, dont l'une ne peut se passer de l'autre. La religion est en effet le fondement de la souveraineté, et celle-ci son gardien. Or, la souveraineté a besoin d'un fondement, de la même manière que celui-ci a besoin d'un gardien. Par conséquent, ce qui n'a pas de gardien sera perdu, et ce qui est dépourvu de fondement sera détruit. » Alors, ça c'est une maxime qui est vraiment présente dans tous les miroirs, et elle est reprise en fait, et elle donne l'impression que la politique et la religion sont indissociables en islam, et qu'il n'y aurait pas finalement d'autonomie du politique en islam. Donc ça, c'est la thèse qui a été développée par pas mal de chercheurs au XXe siècle et un petit peu au-delà. Et je pense que, d'ailleurs, dans mes travaux, c'est ce que j'ai essayé de faire, je pense que cette maxime a une autre portée qui est plutôt morale. C'est-à-dire, la religion ici a un sens purement moral. Quand il dit la religion et la souveraineté sont deux sœurs jumelles, ce n'est pas la religion dans le sens dogmatique du terme, ce n'est pas dans le sens dogmatique, c'est-à-dire comme contenu théologique, comme profession de foi ou article de foi. Ce n'est pas du tout cela. C'est tout simplement dans le sens moral, parce que la religion incite à la vertu, elle incite à la piété, elle incite à la crainte de Dieu, elle incite à la justice, elle incite à l'acquisition de la science, etc. etc. Bien évidemment, il faut aussi développer ce versant moral de la religion, parce qu'on peut trouver des moments, comme c'est le cas actuellement dans le monde musulman, où ce versant moral n'est pas du tout développé. C'est-à-dire il est un peu relégué à un second plan par rapport à l'autre versant de la religion, qui est le contenu dogmatique. Il y a une quantité incroyable de professions de foi qui pullulent sur Internet, par exemple, chez les salafistes ou bien les islamistes. On tente un peu de saisir un peu le centre du dogme. On est un peu dans l'orthodoxie, dans l'accusation d'hérésie ou bien d'impiété qu'on adresse à l'autre musulman principalement, ou bien à l'autre religieux. Donc là, nous sommes dans une configuration, dans une approche du religieux qui n'est pas du tout celle des miroirs, parce que là, cette maxime, elle repose, enfin, elle incite, si vous voulez, à tenir compte du contenu moral ou bien éthique de la religion, et non pas seulement du contenu dogmatique ou bien théologique. Et pour l'illustrer, justement, je voudrais vous insister sur l'idée qu'il y a, dans cette tradition, une focalisation sur les finalités mondaines et immanentes du politique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la perspective d'une politique qui insiste sur le salut ou bien qui détermine la manière de conduire les individus vers le salut dans l'au-delà ou bien qui cherche à gouverner les âmes des individus, comme nous l'avons par exemple dans la tradition, dans certaines traditions religieuses, comme le christianisme. Mais là, nous sommes bel et bien dans des finalités immanentes au pouvoir, vous regardez un petit peu cette belle citation de Sarah Halabi, donc dans Adab al-Muluk, le livre les règles de la conduite des rois, il dit: le pilier du gouvernement et la fin suprême de l'État et l'ornement du pouvoir réside dans l'extension de l'autorité, l'accroissement de la concorde, l'enrichissement des sujets, la puissance de l'armée, l'apparition de la prud'homie, l'anéantissement des tyrans, la sécurisation des routes, le bon exercice par les percepteurs des impôts de leurs fonctions, l'arrivée massive de l'argent, l'intensification des transports, le remplissement du trésor, le flux continu des dons royaux, l'augmentation des délégations et des ambassades, la préservation des arts et l'embellissement des œuvres accomplies. Donc, vous voyez, nous sommes véritablement dans des finalités tout à fait circonscrites, donc à la sphère de l'État, prospérité, bonne situation des finances, sécurité, donc assurer vraiment répondre en quelque sorte aux attentes de la population, des gouvernés, et non pas atteindre d'autres fins liées un peu à la religion ou à la défense d'une profession de foi quelconque ou bien d'une doctrine théologique. Donc je termine par une autre idée qui illustre justement cette forme de mondanisation, cette forme d'autonomisation de la politique, cette idée que je ne vais pas développer malheureusement faute de temps, donc c'est la présence d'une véritable réflexion sur la religion, une sorte de philosophie de la religion, et qui cherche à déterminer son statut au sein de l'État. Je l'avais mentionné tout à l'heure à propos d'Ardashir, mais tous les miroirs pratiquement développent ce contenu, parce que il n'y a pas seulement l'idée selon laquelle la religion est le fondement du pouvoir, dans le sens moral du terme, comme je viens de l'expliquer, mais il y a aussi l'idée que la religion pourrait détruire le pouvoir. Pourquoi ? Parce que la religion se crête également, comme le montre Al-Mawardi, qui était d'ailleurs commentateur du texte coranique, donc exégète du texte coranique, juriste très, très connu, auteur de Miroir des princes, etc. Donc, vous voyez, il ose cette réflexion dans laquelle il dit que la religion pourrait détruire le pouvoir politique. Pourquoi ? Parce qu'elle peut secréter la haine, le fanatisme. Donc elle peut produire les guerres civiles, bien évidemment, la discorde, des formes d'inimitié. Donc elle peut, si vous voulez, être responsable, si elle n'est pas bien théorisée, bien réfléchie dans le cadre des arts de gouverner, elle pourrait détruire le pouvoir du prince. Et donc là, nous avons une forte réflexion sur cette question et une manière, en quelque sorte, d'autonomiser les différentes sphères à la fois de la religion et de la politique que je vais illustrer par cette maxime et une autre maxime par laquelle je termine mon propos. Cette maxime dit: les maximes de la loi révélée, adab sharia, sharia donc c'est la loi, ou la loi révélée plus précisément, les maximes de la loi révélée relèvent de l'application des prescriptions divines, alors que les maximes de la politique, adab siyasa, relèvent de ce qui rend prospère la terre. Maxime, c'est dans le sens de précepte ici. Mais les deux se rapportent à la justice qui permet d'avoir un pouvoir sain et de faire prospérer les pays. En effet, celui qui délaisse les prescriptions divines sera injuste à l'égard de lui-même, et quiconque détruit la terre sera injuste à l'égard d'autrui. Donc vous voyez que nous avons une forme d'autonomisation des deux sphères respectives de la religion et de la politique, parce que chacune procède de préceptes et de maximes qui lui sont appropriés, qui sont en quelque sorte immanents à l'art, de légiférer en matière de religion, ou bien de se conduire religieusement, et également à l'art de se conduire politiquement. Et donc, le fait qu'il y ait des normes propres à la religion et des normes propres à la politique illustre parfaitement bien cette idée. Et je vous laisse avec cette maxime qui ferait sursauter beaucoup de penseurs aujourd'hui et qui montre à quel point, effectivement, on a osé, cette autonomisation du politique qui incarne finalement la présence d'expériences séculières. Je développe beaucoup et je défends beaucoup cette idée de la présence d'expériences séculières au sein de la tradition de l'islam et surtout au sein de la tradition des miroirs des princes. Donc cette maxime dit: la souveraineté peut durer malgré l'impiété, mais ne peut se maintenir dans la justice. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On a le temps de prendre quelques questions.
Bonsoir à tous. Alors monsieur... Vous avez vu, j'étais au premier rang, donc franchement, j'étais obligé de... Je vous ai écouté. Et moi, j'essaierai de poser une question la plus succincte possible. J'avais déjà lu votre interview. Vous avez donné une interview à la revue Esprit en août-septembre 2014.
Oui, tout à fait.
Et vous montrez un élément que vous avez redit aujourd'hui, qu'il y a une autonomie du politique dans la tradition musulmane, Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, cher professeur, comment expliquez-vous la réactivation du théologico-politique qu'il y a dans la tradition musulmane contemporaine, et un effet avec le contemporain. Et en même temps, si vous prenez un de vos confrères, Pierre Manant, qui n'arrête pas de souligner justement sur la tradition du théologico-politique en islam, et quand je lui montrais à travers les travaux d'Olivier Carré, qui a une grande tradition laïque
oui,
en islam,
oui,
il dit qu'elle s'inscrit malgré tout dans la tradition impériale du théologico-politique. C'est-à-dire que même s'il y a une autonomie du politique, elle s'inscrivait en fait dans la tradition du théologico-politique par la perpétuation du califat. Voilà.
Oui, alors, oui et non, parce que dans son esprit, peut-être la perpétuation du califat signifie la perpétuation d'un pouvoir théologico-politique. C'est peut-être ça. Il y a la représentation du califat, dont j'avais parlé rapidement tout à l'heure, selon laquelle eh bien, on a une institution qui est finalement religieuse. Alors, dans l'essai sur les arts de gouverner qui a précédé la traduction de Mawardi, j'ai essayé un petit peu de déconstruire un peu cette idée et de montrer finalement que le califat, bon, certes, il va prendre une coloration religieuse à un moment donné, mais c'est surtout pendant les moments de faiblesse historique qu'il va connaître cette situation. Alors qu'au moment de son apogée, eh bien, le calife, en fait, c'est tout simplement un souverain. C'est le prince dont j'avais parlé. Il n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas du tout ce n'est pas la figure du césaropapisme. Donc, pas du tout. Alors, si, effectivement, Pierre Manant part de l'idée selon laquelle le calife, nous avons une configuration, disons, impériale, déterminée par le théologico-politique, donc forcément, il ne peut que conclure à l'idée de l'absence de désintrication ou bien d'autonomie entre la sphère de la religion et la sphère de la politique. Or, ce qui se passe en fait dans les premiers siècles de l'islam, comme j'ai essayé d'illustrer à travers des maximes, donc là vous avez des textes, vous voyez, il y a des textes quand même qui parlent d'eux-mêmes. Ce que j'ai essayé donc d'illustrer, c'est que le calife, en fait, c'est tout simplement un souverain. Il y a un lexicographe qui s'appelle Al-Askari du 8e siècle qui dit le calife, c'est le souverain du monde. Donc il le qualifie de souverain du monde. On dit calife, cela veut dire Malik ad-Dunya, donc le souverain du monde. Vous voyez, c'est une définition tout à fait profane, entre guillemets. Il n'a aucune attribution théologique ou bien religieuse. Donc ce n'est pas le prêtre qui va gouverner, l'âme des croyants, ou bien qui va absoudre leurs péchés, ou bien qui va les obliger en fait à un aveu, ou leur donner des conseils religieux. Pas du tout. Donc le prince, est, dès le départ, dès les Oumayyades, c'est un guerrier qui parcourt l'Empire pour anéantir les dissidents, pour conserver son pouvoir, vous voyez, qui s'intéresse à la question des finances, qui regarde un peu les affaires de l'État tous les jours, qui tient des conseils pour discuter des affaires de gouvernement. Donc c'est vraiment c'est la figure un peu moderne du prince, un peu telle qu'elle va se construire à partir de la tradition machiavélienne. Bon, donc alors pourquoi le retour du théologique à l'heure actuelle? Effectivement, à l'heure actuelle, nous avons une forte remise en cause de ces expériences séculières produites en terre d'islam pendant des siècles, et qui était d'ailleurs illustré par les Arabes, mais aussi par les Ottomans. Les Ottomans ont fortement développé ces questions. Je ne pourrais pas les aborder, mais en tout cas, il y a aussi un prolongement jusqu'au XIXe siècle chez les Ottomans de cette question, si vous voulez, de l'approche, en quelque sorte, séculière du politique. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis à la Turquie de précéder un peu les autres pays musulmans et de devenir laïque avant les autres. On pense que c'est un modèle laïque d'importation. Certes, il y a l'influence du modèle français, mais parallèlement, il y a des éléments endogènes qui ont permis ce passage. C'est-à-dire que c'est un passage qui ne s'est pas fait forcément contre la population, contre la culture des Ottomans. Donc là, je disais, ce qui pourrait l'expliquer, c'est tout simplement l'historicité des religions et la soumission des États eux-mêmes donc à des phases d'apogée, de décadence. Voilà. Si on prend l'exemple inverse, c'est-à-dire l'Occident latin, nous allons voir qu'à l'époque médiévale, lorsque les musulmans connaissent une phase effectivement d'autonomisation, donc ce dont j'avais parlé tout à l'heure, eh bien, les latins tentent de se dégager de la gangue du religieux ou bien du théologique, à plusieurs niveaux. Au niveau de la philosophie, souvenez-vous, il y a eu les condamnations par exemple, des averroïstes, en 1277, par l'évêque de Paris, Étienne Tompier, parce que les philosophes arabes ont dit le bonheur de l'homme, c'est la pensée, et ce bonheur est atteint dans l'ici-bas, donc forme de mondanisation de la fin suprême de l'homme et de son bonheur. Donc ce n'est pas le salut, ce n'est pas la rencontre avec Dieu. Dieu, on peut le rencontrer par la science, par la réflexion philosophique, par l'intellect, et puis la politique également, parce qu'il y a le pouvoir de l'Église qui a empêché l'État d'émerger Et c'est seulement vers le XVIe, XVIIe, surtout grâce au travail de Machiavel, qui brosse le portrait d'un prince armé qui n'est plus religieux, comme c'était le cas dans les miroirs pré-machiavéliens, mais tout simplement donc avec une éthique très pragmatique, très positive, la conquête. C'est ça un peu l'éthique machiavélienne. Et donc là, nous avons effectivement un passage, une forme de sécularisation qui est très bien étudiée par Marcel Gaucher ou bien Permanent, par beaucoup de spécialistes. Mais la comparaison avec l'islam, à mon avis, elle est un peu bancale. Voilà. Donc je ne suis pas convaincu par sa lecture. Et je pense qu'il faut être dans l'histoire. Donc on est dans des phases où l'islam a connu des formes d'expérience séculière. Maintenant, il illustre en quelque sorte la contre-sécularisation. Il est en quelque sorte les penseurs islamistes qui cherchent à incarner, qui tendent à incarner en fait la pensée politique de l'islam, parce que c'est la seule voie par laquelle on accède à la pensée politique à l'heure actuelle. On ne parle jamais de juristes en islam, on ne parle pas de philosophes politiques à l'heure actuelle, on ne parle pas de penseurs comme ça pragmatiques comme les auteurs des miroirs de l'époque médiévale. À l'heure actuelle, quand on évoque la pensée politique en islam, on évoque qui? Eh bien, on cite les islamistes. On cite Sayyid Qutb Maududi, et on pense que c'est ça un peu la pensée politique de l'islam. C'est vrai pour l'époque contemporaine, mais ce n'est pas vrai pour plus de 14 siècles. Et donc, voilà, nous sommes dans des phases, si vous voulez, à la fois qui peuvent être illustrées par l'image du chiasme. C'est-à-dire, l'Orient musulman a connu des expériences séculières à l'époque médiévale, mais à l'heure actuelle, il connaît donc une phase de contre-sécularisation, alors que l'Occident latin est passé par une phase de contre-sécularisation, ou bien de refus de la sortie du politique, de la sortie du religieux, plutôt de la sortie de religion, pour reprendre l'expression de Marcel Gaucher, alors qu'à l'heure actuelle, il illustre justement cette sortie de religion. Bon, c'est un peu schématique, mais c'est comme ça que j'aborde les choses.
Bonsoir.
Bonsoir.
Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge.
Moi aussi.
Je vous remercie pour cette conférence.
Il n'y a pas eu de dégâts, j'ai pu parler pendant une heure et demie.
Alors bon. Voilà, en fait, vous mettez en avant le fait que le pouvoir et la gestion du pouvoir est un phénomène dans le monde musulman qui aurait développé donc une vision, on va dire, entre guillemets, assez laïque.
Mais je refuse d'utiliser ce terme, séculière.
Plutôt. Séculière, d'accord. Mais je trouve que c'est un peu...
Parce que la laïcité est connotée par l'expérience française.
Voilà,
alors qu'on peut parler de sécularité pour l'Allemagne, les autres pays, alors que laïcité, ça ne dit rien pour...
D'accord,
eux.
Mais c'est dans ce sens-là, voilà. Tout à fait. Mais je trouve que c'est mettre de côté le fait que l'origine, quand même, la source, le premier État musulman... Il remonte quand même au prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Oui.
Et que le prophète exerçait à la fois une dimension religieuse et politique. Il gérait les affaires de l'État et il incarnait aussi la guidance donc, pour l'humanité. Et qu'il a été suivi en cela par les premiers califes qui étaient eux aussi dans une démarche de double fonction et de une démarche de globale qui intègre à la fois le théologique et le politique. Et il me semble que là, cette distinction, peut-être qu'elle a fini par commencer à s'opérer un peu plus tard, mais c'est une sorte de décadence, en fait. Et c'est pour ça que ça explique pourquoi les musulmans de l'ère contemporaine qui essayent de retrouver, on va dire, une sorte de pureté originelle, font ce travail de retour à... C'est-à-dire que ce n'est pas une construction, une invention de leur part. Ils essayent de revenir à la source première dans laquelle... Les deux dimensions étaient complètement imbriquées l'une dans l'autre. Et juste pour finir, il y a un document qui est très important, et je m'étonne que vous ne l'ayez pas cité,
c'est la charte de Médine.
Il y a la charte de Médine, et après la lettre de Ali ibn Abi Talib à son gouverneur en Égypte, Malik al-Ashtar,
ouais.
Et dans laquelle il développe énormément, plein de principes de gouvernement, etc., mais dans lesquels, à chaque fois, l'élément religieux et théologique est absolument prégnant. Voilà, je voulais avoir votre réaction sur cet aspect-là.
Bon, alors, en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec votre interprétation de l'histoire de l'islam. En fait, votre lecture, justement, c'est une lecture... En fait, ce n'est pas seulement une lecture du politique, c'est une lecture de l'histoire de l'islam. Et notamment de la question de la fondation de l'islam. Alors, vous dites que, effectivement, le modèle prophétique... Oui, le modèle prophétique était là, et la mission du prophète a consisté à la fois à fonder une religion, mais cette fondation de la religion, parce que c'est un messager, qui s'inscrit dans la tradition des révélations monothéistes, et ça vous le savez très bien et tout le monde le sait. Mais cette fondation donc religieuse a été accompagnée d'une œuvre politique. On ne peut pas nier le contenu politique, comme vous l'avez dit. Je ne suis pas de ceux qui disent, par exemple, que le prophète, certains auteurs disent pour dire finalement que en islam, il n'y a pas de modèle politique. Ils vont dire, oui, le prophète n'a été finalement qu'un messager et non pas un homme politique. Je ne suis pas d'accord avec cette lecture. C'était effectivement un homme politique, chef de guerre, etc. Donc il y avait une double dimension qui était inscrite dans cette période de la fondation de l'islam au début du 7e siècle. Mais la perpétuation de ce modèle du prophète, homme politique, qui reprend un peu, qui réactive un peu le modèle de Moïse, le prophète armé, si vous voulez, et qui se distingue un peu de la figure du Christ, parce que le Christ n'a pas, justement, quand on compare un peu l'islam et le christianisme, on dit, voilà, le Christ n'a pas accompli d'œuvre politique, n'a pas fondé d'État. Il va falloir attendre 3 siècles, un peu plus, pour que les chrétiens développent finalement un État après la conversion de Constantin. Donc, si on suit votre logique, il faudrait que tous les gouvernants soient, en quelque sorte, ou bien représentent le prolongement de cette mission à double vocation, à la fois prophétique et politique. Moi, je pense déjà que théologiquement, dans la mesure où en islam, Mohammed, justement, c'est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes, et qu'il clôt le cycle de la prophétie, théologiquement, je ne sais pas comment vous admettez l'idée selon laquelle tous les gouvernants devraient avoir un don prophétique et communiquer avec le ciel, ou bien avoir, si vous voulez, une référence religieuse, ou bien donc une inspiration de type religieux. Si on est conséquent avec soi-même, il faudrait justement considérer cette période de la fondation comme une œuvre éminemment prophétique, comme vous l'avez dit, éminemment prophétique, mais que ça serait le trait distinctif du prophète en tant que tel, et que cela ne peut pas revenir, ne peut pas se reproduire dans l'histoire. Donc il faudrait faire le deuil, en quelque sorte, de cette expérience, parce que même théologiquement en islam, à mon avis, enfin, vous le savez mieux que moi peut-être, eh bien, il n'y a pas cette possibilité qu'il y ait d'autres envois de prophètes, donc théologiquement parlant. Vous voyez un petit peu le... ils ont gouverné en tant que gouvernant temporel, justement. Oui, je me demande si quelle est la part de religieux. Il y a des préceptes qui viennent de la religion. Il y a des préceptes, mais je ne l'ai pas nié. C'est-à-dire, les miroirs... Alors, les miroirs, vous savez, les miroirs citent les textes sacrés, citent le Coran, analysent certains versets, moins que la tradition théologique ou moins que la tradition juridique, certes. Mais, c'est-à-dire, il n'y a pas de déni des réalisations du prophète ou bien des premiers successeurs en termes politiques, mais cela est apprécié d'un point de vue moral et politique. Vous voyez, si on se déplace vers le terrain de la théologie, là, je pense qu'on va aborder la politique d'un point de vue théologique. Donc, vous avez évoqué le terme décadence, c'est-à-dire tout ce qui vient après la fitna et décadence. Je peux vous poser la question, eh bien, pourquoi les compagnons du prophète, les fondateurs de l'islam, se sont fait la guerre entre eux, quelques années, quelques dizaines d'années après la mort du prophète? C'est-à-dire, vous voulez établir une histoire mythifiée, un peu sanctifiée du début de l'islam, alors qu'on sait concrètement qu'il y avait des guerres pour des raisons politiques, des discordes ayant opposé les premiers musulmans à propos de thèmes politiques. Alors, ou bien on les aborde politiquement, c'est-à-dire de manière concrète, ou bien on les aborde théologiquement. Voilà. Donc, c'est deux visions de l'histoire de l'islam, et j'espère avoir expliqué mon point de vue.
Alors, je tenterai un peu une hypothèse suite à ce que vous avez dit, monsieur. C'est qu'en fait, peut-être qu'au début de l'islam, il y avait cette question de la conquête, et que c'était ça qui était un peu le moteur de ce qu'a fait le prophète, qui était à la fois politique et dans la théologie. Et peut-être qu'aujourd'hui, je reviendrai à ce que vous avez dit au début, sur la question de l'ouverture en islam au savoir. Il y a même un hadith qui dit « cherche le savoir où qu'il soit, fût-il en Chine ». Et peut-être que c'est ça la source de l'islam, c'est comment ouvrir à la question du savoir.
Écoutez, ça, c'est des facteurs culturels dont les causes sont malheureusement insondables. Enfin, on peut les étudier a posteriori, mais on ne peut pas étudier ad hoc, si vous voulez, les conditions qui se réunissent pour mettre en place des dynamiques de savoir. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la prospérité? Est-ce que c'est la volonté des princes? Est-ce que c'est l'état des sociétés? Voilà, ça c'est une question extrêmement intrigante qu'on peut étudier après coup. C'est-à-dire pourquoi les musulmans étaient dans la recherche du savoir, dans la quête du savoir, Je pense qu'il y avait une dynamique culturelle, d'ailleurs, qui dépasse un peu la dynamique religieuse ou la référence à ce hadith, d'ailleurs, qui est apocryphe pour certains, donc aller chercher la science même en Chine. On n'a pas attendu, si vous voulez, la constitution des recueils de hadith au 8e siècle ou un peu au-delà, pour aller chercher la science. Immédiatement, les gens étaient dans la recherche du savoir. Donc il y a quand même une volonté de savoir qui était là. Et cela, bien évidemment, certes, provient de la nature du message moral de l'islam, du message religieux, certes, mais de la, disons, de la configuration historique inédite qui a existé entre le 7e et le 8e siècle. Vous savez, les gens étaient avides de savoir, ils traduisaient tout, ils voulaient tout développer, et donc c'est quelque chose d'intéressant, de passionnant. Dimitri Goutas, que j'avais cité tout à l'heure, donc compare cette phase justement à l'Athènes de Périclès, donc à de grands moments dans l'histoire culturelle de certaines nations, ou bien à la Renaissance européenne. Vous voyez un petit peu le... Donc, voilà. Après, pourquoi aujourd'hui il y a une forme de décadence ou un refus des savoirs ? Bon, on étudier scientifiquement les causes et puis chercher à aller un petit peu dans l'autre sens. Voilà. Je cite un petit exemple. Vous savez, les Arabes, à l'heure actuelle, je veux dire les Arabes, les pays arabes, vous savez combien ils traduisent, le nombre de traductions des langues étrangères, il y a 1%, ou je ne sais pas 5%, en tout cas c'est un chiffre dérisoire, de ce que l'Espagne tout seul traduit. Bon, c'est un exemple. Alors, faute de quoi ? Faute peut-être de moyens, de paresse, c'est une question de paresse intellectuelle, de formation des gens dans les langues étrangères, de formation, de système universitaire, éducatif. Donc c'est un tout, si vous voulez, d'économie, de problèmes économiques, de problèmes politiques. Donc voilà, c'est une crise, une forme de crise culturelle, à multiples visages, mais... pour la surmonter, je ne suis pas de ceux qui jouent les prophètes, donc je ne peux pas vous dire quand.
Merci beaucoup, Makram Abbès. Merci à tous.
Merci beaucoup.
Merci à tous de votre attention. On vous donne rendez-vous mardi 5 avril pour continuer sur ces questions politiques, pour parler des leaders politiques dans le monde arabe contemporain. Et ce sera Elisabeth Picard. La conférence s'intitule très simplement « Sultan, roi et président ». Bonne soirée.